Bonjour les chroniques rebelles, aujourd'hui avec Planète B, un film de Aude Léa Rapin, en salle depuis le 25 décembre. Le film de Aude Léa Rapin, angoissant et spectaculaire, nous a donné l'envie de reprendre plusieurs entretiens autour d'un livre. Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal. Présentation par l'un des auteurs, Shaïn Morris, suivi dans les prochaines semaines de l'entretien avec Joël Charby, enregistré cet automne à Publico. La source, un film de Myriam Jobert. Tout ira bien, un film de Ray Young. Quiet Life, un film d'Alexandros Avranas. Enfin, Nika Ex Machina, un film de Deborah Sayag. Et Mika Tarn, présenté par Caroline. Planète B, un film de Aude Léa Rapin, en salle depuis le 25 décembre. Le cauchemar d'une prison virtuelle vue par Aude Léa Rapin dans une angoisse au paroxysme. Nous sommes en 2039. Bon, ce n'est pas si loin dans le futur. Et cela est une bonne entrée dans la réalité carcérale et ce qu'elle pourrait devenir dans les cerveaux toxiques des édiles de l'enfermement. Les dérives politiques, policières et judiciaires de l'État sont évidemment justifiées par la guerre contre le terrorisme ou l'éco-terrorisme dévoyé par une démocrature. Je me suis appuyée sur les écrits du comité invisible. L'insurrection qui vient, explique la réalisatrice, pour croquer une société où l'on ne manifeste plus dans la rue sa colère, mais où une partie de la jeunesse s'oppose partout et tout le temps au modèle de société qu'ils rejettent. L'imprévisibilité de leurs actes, leur caractère extrêmement mobile et continu, leur permettent de déjouer l'arsenal policier. J'ai également bénéficié de l'aide d'un ancien haut gradé du renseignement militaire. De quoi faire froid dans le dos. Planète B dépeint donc une société sous surveillance, en ébullition, où la désobéissance civile déborde la police et l'État. Ce sont ces activistes qui composent la galerie des captifs, cobayes de la prison virtuelle. Avoir non pas pour se terrer chez soi, se borner à consommer et ne plus rien revendiquer, bien au contraire. Plus il y aura de soumission et plus ce genre de dérives étatiques carcérales auront la possibilité de se développer.
Je te rappelle de rien. Il y avait des drones. Il y a des services qui sont arrivés.
Bienvenue à Planète B, la première prison virtuelle. Vous allez nous aider à démanteler la cellule terroriste.
Personne va dénoncer personne.
C'est dans cette chambre noire que vous pourrez communiquer avec nous.
Were you a journalist in Baghdad?
They're not giving anyone papers anymore.
You are in the Shatir Lady.
Attention! Attention!
Headset from the military base.
5,000.
Take this and get out of here.
This is not a headset. It's a bomb. This thing has the army logo.
Gucci, tu viens d'arriver?
Are we in again?
Everyone outside believes you disappeared.
They're looking for you.
I'll get you out of here.
Si on ne pouvait pas fuir.
Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal. De Joël Charby, Shaïn Morris et Gwenola Ricordo. Édition Luxe. C'est la première partie d'un entretien avec Shaïn Morris. Que signifie punir ? La situation dans les prisons est scandaleuse, c'est connu. De même que la réinsertion est évidemment un mythe. Donc, à quoi servent l'enfermement et la prison qui, d'une certaine mesure, constituent la matrice de l'abolitionnisme? Selon Joël Charby, Shane Morris et Gwenola Ricordo, l'objectif de cet ouvrage n'est pas de dresser un bilan politique de l'abolitionnisme, d'autant plus qu'il est parfois difficile de distinguer ses victoires des transformations et mutations plus générales du système pénal. Avant tout, brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal est un livre précieux et dense. Une histoire de l'abolitionnisme à partir de multiples témoignages et expériences différentes, croisées, synthétisées, examinant les luttes et les mouvements abolitionnistes, les critiques sur la police, la prison et le système pénal, les révoltes des prisonniers et les réformes pénitentiaires ou encore le complexe carcéro-industriel états-unien. On y retrouve d'ailleurs Radio Libertaire avec l'émission « Ras les murs » de Jacques Le Sage de La Haye. L'abolitionnisme est un courant de pensée universel, du moins nous l'espérons, et certainement lié à la politique anticapitaliste. Dans le champ politique, l'abolitionnisme fait face à plusieurs défis, à commencer par la puissance du populisme pénal et du punitivisme, comme l'illustre la prépondérance des courants carcéralistes au sein du féminisme. Par ailleurs, l'abolitionnisme est à contre-courant de la montée en puissance de la judiciarisation des luttes depuis les années 1970. Le droit est définitivement entré en prison, occasionnant des effets ambigus. Car s'il permet dans certains cas de mieux défendre des personnes détenues, dans d'autres, il encourage la rationalisation de la surveillance et du contrôle. Il reste que cette centralité du droit est aujourd'hui peu remise en question comme outil des luttes émancipatrices. Et dans un moment où la droite, le capitalisme et les idées réactionnaires sont popularisées à l'extrême par la plupart des médias mainstream ou grand public, comme vous voulez, il serait intéressant d'envisager que l'abolitionnisme ne soit plus seulement cantonné à des recherches universitaires. Rencontre avec Shane Morris, première partie.
On a souhaité surtout faire l'histoire de ce mouvement, justement pour voir comment depuis 50 ans des personnes, des groupes ont pensé cette question-là, ou l'ont déconstruite. À la fin du livre, on a une foire aux questions, où on a sélectionné 6 questions principales, dont une qui porte spécifiquement sur la question de l'alternative ou des alternatives, et où on essaie de montrer, en s'appuyant simplement sur la façon dont les abolitionnistes ont répondu depuis un demi-siècle, à quel point cette question est piégeuse. Et d'ailleurs, de la même manière que pour tous les mouvements de transformation sociale révolutionnaire, où souvent, quand on pose la question « qu'est-ce que vous proposez à la place ?», implicitement, on cherche à garder le même système et à simplement enlever une institution et la remplacer par une autre. Sauf que l'abolitionnisme, comme plein de mouvements qui cherchent à transformer la société en profondeur, ils partent de la question qui les intéresse. Là, nous, en l'occurrence, c'est la question de, entre guillemets, le crime, de la prison, de la peine, et comment on peut tirer ce fil et voir tout un tas de transformations nécessaires à différents échelons de la société, du niveau le plus interindividuel au niveau le plus structurel.
L'abolitionnisme, est-ce que c'est un courant universel ou seulement occidental?
Dans le livre, on définit l'abolitionnisme de manière assez restreinte, et à la fois assez lâche, c'est-à-dire qu'on le fait partir à partir des années 60-70, alors qu'il existe des critiques de la prison, du système pénal, depuis son origine moderne, avec le développement des États au 19e. Notamment, on peut penser aux critiques anarchistes, libertaires, de la fin du 19e, avec tout un tas de libertaires qui ont été incarcérés, Kropotkin, Emma Goldman, Malatesta ou une néerlandaise qui s'appelait Clara Wichman, qui ont fourni vraiment des critiques acerbes de ces systèmes-là, qui sont super intéressantes, mais que nous, on qualifie de proto-abolitionnistes. La raison pour laquelle on définit l'abolitionnisme pénal, on dit qu'il commence à partir des années 60-70, c'est précisément parce que c'est un moment où il y a une critique systématique qui se fait, à la fois dans le champ politique et dans le champ des idées, alors ça peut être universitaire mais pas uniquement. Dès l'origine du système pénal moderne, au 19e, il y a aussi des critiques qui se font pas abolitionniste, enfin pas critique à ce niveau-là, mais réformiste. Par exemple, Foucault, dans son livre « Surveiller et punir », il a une phrase qui dit à un moment « La réforme de la prison est contemporaine à sa création ». Et il parle de critique monotone de la prison. Dès le début, en fait, des gens ont voulu réformer la prison pour essayer de la rendre meilleure. La raison pour laquelle nous, on le fait démarrer vraiment à partir des années 60-70, parce qu'à ce moment-là, t'as un mouvement qui se pense contre les réformistes, spécifiquement. Et c'est pour ça que ça s'appelle abolitionniste. Bien sûr qu'il y a la généalogie avec l'abolitionnisme de l'esclavage, on pourra en reparler. On se dit abolitionniste parce qu'en fait, on ne veut pas la réforme, on veut l'abolition. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas user de réforme, mais qu'on ne veut pas la réforme pour la réforme. C'est penser qu'on peut, à force de réforme, rendre le système acceptable. Là, en l'occurrence, la prison, le système pénal. Là, c'est des gens qui disent non. Nous, on refuse la prison et le système pénal, non pas parce qu'elle n'est pas efficace dans son fonctionnement, mais parce qu'on refuse même ses fonctions sociales et politiques. On refuse sa façon de voir le réel, sa rationalité. Et en définitive, on considère que cette institution ou ces institutions créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Et donc, pour revenir à ta question sur l'occidental, non-occidental, du coup, il y a ce proto-abolitionnisme. Nous, on considère que l'abolitionnisme pénal comme mouvement politique, donc ce isme, tu vois, souvent c'est ça, c'est une systématisation de ces réflexions qui partent comme ça. Ça commence dans les années 70. Et par ailleurs, il a existé aussi, depuis les débuts de la colonisation, enfin, on peut remonter à plusieurs siècles, des critiques spécifiquement des personnes et des peuples qui ont été colonisés et de la manière dont l'appareil pénal a été mobilisé pour les asservir. Et donc ça, c'est pareil, c'est des critiques qu'on pourrait lier à l'abolitionnisme, mais on ne le lit pas dedans parce que, c'est encore une fois, ce n'est pas pensé comme tel. C'est lié vraiment aux luttes décoloniales ou anticoloniales, anticolonialistes plutôt.
Est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont été faites au moment de la colonisation et qui ont servi d'expérience pour après servir en métropole ?
Si on part du principe que le développement moderne de la prison, comme institution, c'est-à-dire prison pénale, souvent on l'appelle, le développement de la prison pénale, c'est après la Révolution française. C'est justement avec cette idéologie des Lumières qui veut que l'homme est perfectible, donc on peut le changer, donc on peut l'incarcérer, et sous un modèle un peu avec une généalogie, tu sais, religieuse, il va pouvoir revenir dans la société amendée. Ça, c'est donc 19e, comme souvent dans tout un tas de domaines répressifs en particulier, les colonies ont servi de laboratoire. Après, je pense qu'il faut regarder les travaux en détail, mais il y a des développements à la fois concomitants. Parfois, il peut y avoir des circulations dans un sens, mais à mon avis, voilà, il faudrait faire une histoire croisée en fait, de ces choses-là, parce qu'il y a à la fois des parallèles qui peuvent se faire et des développements croisés. Mais après, on peut simplement, par exemple, penser à la question du bagne aussi. Récemment, il y avait l'actualité avec la Kanaky. C'est un très bon point pour voir les liens qu'il peut y avoir entre colonisation et institution pénale. La Guyane et la Nouvelle-Calédonie plus tard, à partir de la moitié du 19e siècle, ça se développe. Le premier driver de cette colonisation, c'est le bagne. Donc c'est forcer des gens à aller là-bas et rester là-bas pour développer une terre où personne ne veut aller. Parce que c'est des conditions hyper compliquées pour y vivre, etc.
Qu'est-ce que c'est la notion de punir ? Tu m'as dit tout à l'heure, bon, on a pensé au 19e siècle que ça allait rendre les gens meilleurs, etc. Bon, écoute, avec déjà toute cette expérience qu'on a et par rapport au constat qu'on peut faire aujourd'hui, je ne vois pas tellement de perfectibilité dans le système des prisons et donc de la punition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, punir ?
Si on a une perspective de sociologie pénale, mettons, punir, il faut d'abord le séparer de condamner. Punir, souvent, c'est le terme profane pour dire qu'on va sanctionner un comportement, mais sans forcément s'adosser à une règle explicite ou une règle formelle. Tandis que condamner, c'est censé justement sanctionner un comportement, mais en s'adossant à une règle formelle qui va être généralement juridique. Mmh. Et là, en l'occurrence, dans notre domaine, c'est le code pénal. Dans d'autres pays, on l'appelle autrement, mais bon. La condamnation, c'est ce que fait le magistrat quand il va essayer de clôturer une procédure pénale, qui a été d'abord en amont ouverte par les premières instances au niveau de la chaîne pénale, qu'est la police. Donc dans la chaîne pénale, on a la police, après on a les tribunaux, et après on a la prison et toutes les peines qui entourent. La prison est en son centre, même si ce n'est pas la peine qui est la plus donnée, mais c'est la peine certainement symboliquement même la plus importante, et qui marque le plus l'imaginaire punitif. Tout au long de cette chaîne pénale, il y a des politiques de tri, d'orientation, et généralement ce qui rentre par la police, ou par d'autres choses d'ailleurs, parce que parfois c'est pas la police qui ramène les affaires, mais tu peux avoir des juges qui s'autosaisissent. Au fur et à mesure de cette chaîne pénale, il y a un écrémage. Tu vas avoir une grosse masse, par exemple, qui va rentrer au début. Et au fur et à mesure, ça va être de plus en plus petit et de plus en plus résiduel, jusqu'à la condamnation. Et même après la condamnation, parfois, tu as des condamnations qui ne sont pas suivies des faits. Donc ça, d'ailleurs, c'est un point très intéressant et très central chez les abolitionnistes, qui est de rappeler systématiquement que la plupart des cas qui pourraient être criminalisés, c'est-à-dire qui pourraient rentrer dans le code pénal comme crime ou délit, en réalité, ne passe jamais par la machine pénale. Jamais. Donc quand les gens disent, si demain on abolit la prison, ou si on abolit le système pénal, ce sera l'anarchie.
Très bien.
Oui, voilà, mais l'anarchie, dans un sens...
Le chaos.
Voilà. Mais l'essentiel des situations qui pourraient rentrer théoriquement dans ce code pénal passe déjà en dehors des radars du système pénal, ne sont jamais traitées. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont traitées de manière satisfaisante, d'ailleurs. Mais justement, pour les abolitionnistes, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'il faut regarder comment on pourrait traiter de manière satisfaisante ces situations, soit généralement qu'on traite mal, soit qu'on ne regarde même plus. Et même parmi la quantité infinitésimale des situations criminalisables qui rentrent dans le système pénal, généralement le traitement n'est pas satisfaisant pour les parties. C'est un premier point essentiel des abolitionnistes, mais si tu veux, sur l'analyse du système pénal, je pourrais développer après.
Mais ton civil est militaire, que de quoi que ville où l'on t'enterre pour te faire payer physiquement, mentalement, très durement les manques d'égard de loi divine. Tel est le châtiment qui chaque jour s'affine. Et comme on peut le voir dans chaque ville, les procès truqués, joués d'avance, où le hors la loi n'a aucune chance. Mais tu penses, si on s'en fout de leur clémence. Morne les juges amers aux airs trop graves quand il s'agit de punir, de mettre en cage ces magistrats pensins et leurs acolytes, toujours prompts à prôner la trique, à nous jeter au fond des oubliettes dans un cérémonial claquement de sonnette. Jouant comme un virus avec des billes en stand-by, il remplit ses tôles de Paris à Shanghai. Les procureurs civils dans leur costard sévère persévèrent et condamnent toute la journée à des années de prison, des siècles de placards, des peines abyssales énoncées du matin au soir. Mais pour ceux qui ont le flouze ou la notoriété, il y a seulement quelques pattes agressées pour obtenir sans grimace les bonnes grâces des sbires têtus et toujours pleins d'audace. L'individu fait l'État et la propriété, et pour les protéger il y a le pénitencier. Le père est dur, rigoureux, sévère. Il mène la Shoah sur les paumés de la terre. Plus de mystère, le bourreau vocifère. Tous ceux qui ont levé la barre un peu trop haut pourrissent aujourd'hui détenus en cachot. Isolés, malmenés, pas complètement bâillonnés, mais en tout cas totalement abandonnés. Ignorés, même ils semblent méprisés par ce prolétariat auquel ils ont tout donné. Dans la longue série des horreurs carcérales, l'humain a aussi pensé l'option hôpital. Et au-delà des douleurs qu'enduraient les amis, j'aimerais bien pouvoir amener la critique sur un plan animal. Pourquoi la prison dans les villes, la domestication? Je ne veux rien excuser, rien pardonner, et comme tous ceux qui sont du côté de l'enfermement, et assurément, bien que je me répète, il serait bon de voir péter les têtes de ceux qui ont conçu et imaginent encore améliorer ce qui nous fait du tort. Les goulags quotidiens aux multiples écrous, sortis des malsains pour ceux qui voudraient tout, sans se lever le matin, gouvernés par les sous. L'humain dépité, décapité, heureux de s'interner, ne pense plus beaucoup à se carapater. Pauvre monde, pauvre humanité, que de merde à ressasser. D'un bout à l'autre de la planète, il y a des cellules au-dessus de nos têtes. Mais aussi, il ne faut pas l'ignorer, les corps menacent le monde entier. La prison est un tout, elle est la société, de l'usine à la plage, des villes aux cités. La prison est ce monde.
Tous les systèmes de condamnation, ça va pas vraiment être positif, c'est-à-dire il va y avoir évidemment l'idée de vengeance et de punition, mais est-ce que la personne qui a subi telle ou telle chose va elle-même après pouvoir se reconstruire ? Par exemple, dans le cas de viol, est-ce que la personne va pouvoir se reconstruire à partir de ça ?
C'est la question que se posent aussi les abolitionnistes. Pour répondre à ta question, Je vais détailler justement quelle est l'analyse de la prison et du système pénal plus généralement qu'ont les abolitionnistes, parce que c'est leur point de départ en fait pour leur critique et pour proposer d'autres modes de régulation sociale. Parce que l'analyse te permet de développer telle ou telle solution, et selon le type d'analyse que tu auras, les solutions ne seront pas les mêmes. On peut résumer les critiques abolitionnistes en trois grands points généraux, qui sont intimement liés. D'abord, les abolitionnistes vont reprocher au système pénal son caractère inefficace et inopérant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le caractère injuste et inégalitaire. Deuxième chose. Et troisième, destructeur et immoral. Donc d'abord, le fait que le système pénal est inefficace et inopérant, c'est dire, dans un premier temps, que le système pénal ne remplit même pas les fonctions que lui-même s'assigne, et en vertu desquelles il se sent légitime d'agir. Le système pénal prétend remplir en particulier quatre fonctions. Ça va être par exemple d'abord la dissuasion, la neutralisation, la réhabilitation, ou on l'appelle réinsertion aujourd'hui, et l'expiation, qu'on appelle aussi rétribution. Sur la question de la rétribution, c'est une des fonctions les plus vieilles et les plus évidentes peut-être de l'aspect pénal, qui est de faire souffrir une personne condamnée à la hauteur, voire plus, même de la hauteur de la gravité de l'acte commis. Donc c'est une compensation par la douleur. Même d'un point de vue éthique, les abolitionnistes s'opposent à cette vengeance institutionnalisée, mais je vais y revenir. Ensuite, il y a la dissuasion. C'est une logique utilitariste. On pense que par la peine, les gens vont être dissuadés de commettre tel ou tel acte délictuel ou criminel, soit en amont, prévention qu'on appelle, enfin dissuasion, ouais, c'est ce qu'on appelle aussi parfois la prévention générale, soit après, une fois qu'ils ont déjà été condamnés, donc on va empêcher la récidive. La personne va voir qu'elle a été en prison, elle va voir les conséquences de son acte, et donc elle ne va pas recommencer. Que ce soit la dissuasion en amont ou la dissuasion en aval, les études montrent que ça ne fonctionne pas. Parce que, précisément, les logiques de la criminalisation sont à chercher ailleurs que juste dans l'acte de dissuader. La neutralisation, ça c'est peut-être la fonction qui est la plus efficace du système pénal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est enfermée, elle ne peut pas commettre d'actes délictuels, en tout cas à l'extérieur de la prison. Pour les systèmes pénaux où ça existe encore, la peine de mort, à partir du moment où on est mort, c'est difficile aussi de commettre des actes délictuels. Pour reprendre les paroles par exemple d'Angela Davis, les prisons enferment les êtres humains mais ils n'enferment pas les problèmes sociaux. Ça ne va pas s'arrêter pour autant, c'est quand même à courte vue comme façon de penser les choses. Ensuite, la dernière fonction vraiment majeure que le système pénal s'est assigné à partir du 19e et dont on a déjà parlé, c'est un peu pour les abolitionnistes le supplément d'âme du système pénal, c'est la réinsertion, la réhabilitation. Donc là encore une fois, on est dans une logique utilitariste, typique de la philosophie des Lumières, de perfectibilité de l'être humain, avec une généalogie chrétienne de la rédemption, du retour sur soi par l'isolement, etc. Qui s'est traduit au XXe siècle aussi, par exemple, du traitement, parfois médical, pour les personnes dites criminelles, qui permettrait aux coupables de s'améliorer, de se réinsérer dans la société, d'éviter de commettre de nouvelles infractions. Les études montrent que visiblement ça fonctionne pas bien, ou en tout cas c'est pas probant, et que l'enfermement par exemple a beaucoup plus tendance à désocialiser et déhabiliter les personnes qu'à les réhabiliter ou les resocialiser. Ça c'est le point de départ pour critiquer les choses que le système pénal prétend faire qu'il ne fait même pas, mais les abolitionnistes vont beaucoup plus loin que ça encore, parce que c'est pas encore une fois une logique du fonctionnement, parce qu'à la limite on pourrait dire bon bah on va essayer d'améliorer toutes ces fonctions là, etc. etc. Les abolitionnistes ont une critique beaucoup plus fondamentale, c'est qu'ils vont vraiment remettre en cause, par exemple, là on parlait de réinsertion, ils vont remettre en cause même l'idéologie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que pour eux, parler de réinsertion en permanence quand on parle de prison, c'est pas vraiment avoir une logique, enfin une approche très radicale de la situation et très empirique. Parce que la plupart du temps, les gens ne sont pas incarcérés parce qu'ils sont désocialisés ou qu'ils sont pas aussi bien intégrés que les autres. Les logiques de la criminalisation sont bien différentes. Et notamment dans les années 60, donc quand l'abolitionnisme se développe, t'as précisément en sociologie, sur la logique du crime, ou en criminologie, ou en sociologie du crime, ils vont arrêter de regarder l'acte, parce qu'avant on disait qu'il y avait une sorte de sociologie du passage à l'acte, pendant des décennies et des siècles, chercher à comprendre pourquoi la personne va passer à l'acte, centré sur individu, en concordance directe en fait avec la vision pénale, c'est-à-dire qui est très individualisante, dépolitisante, tout est une question d'individu, de sa psychologie, des circonstances éventuellement. Et là ils vont commencer à regarder autrement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent en prison par exemple, c'est regarder qui condamne. C'est passer d'une sociologie du passage à l'acte à une sociologie du contrôle social et de la déviance. Donc qui définit que les gens sont déviants? Qui définit le crime? En amont d'abord, donc dans les lois. Qu'est-ce qui est criminel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ensuite, une fois que les lois sont établies, quel groupe on va viser? Parce qu'en fait, potentiellement, ça c'est aussi, c'est pareil, c'est le béaba de la sociologie ou de la criminologie. C'est ce qu'on appelle le chiffre noir du crime. L'essentiel des actes, comme je disais tout à l'heure, ne passe jamais là-dedans. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va diriger l'action des institutions vers tel ou tel groupe, ou vers tel quartier, ou vers telle population, plutôt que tel autre? Parce que si on veut chercher, on en trouvera partout. Eux, ils ont vraiment pris de la hauteur par rapport à ça, et donc, pour eux, leur critique a été cherchée ailleurs. Et donc, une des choses fondamentales dans l'abolitionnisme, c'est la critique justement de cette catégorie de crime, ou de criminalité. Plus souvent, on dit, bon, bah, la prison, le système pénal va répondre au crime. Elle va permettre d'éviter qu'il y ait plus de criminalité, etc. Mais en fait, dans un certain sens, ça n'a aucun sens de dire ça, parce que la criminalité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas rien dire parce que les actes qu'on met derrière n'existent pas. Ça, ils existent. Mais c'est qu'en fait, amalgamer tout un tas d'actes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, que ce soit dans la matérialité des actes ou alors dans les conséquences qu'ils peuvent avoir sur la vie des gens, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, tu proposes une même solution, c'est-à-dire un marteau répressif, pour 1 million d'actes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc déjà, il dit que c'est un très mauvais point de départ. Dans la lignée de beaucoup de sociologues, y compris qui ne sont pas dans l'abolitionnisme en particulier, par exemple, un abolitionniste norvégien qui s'appelle Nils Christie va dire « Le crime, c'est une éponge qui permet de prendre tout un tas de types d'actes pour les soumettre après au contrôle social. » C'est à ça que ça sert. Mais comme les termes aussi stigmatisants que terroristes, voilà, il y a plein de termes comme ça, criminels, terroristes, c'est des actes qui en soi ne veulent rien dire, qui historiquement, géographiquement, spatialement, changent de sens en permanence. Et tout ce qui sert, c'est la stigmatisation pour appliquer après une réponse, en l'occurrence la punitive. On voit bien que bon, parler du crime en général, du crime qui augmente et qui baisse, ça ne veut rien dire. On peut parler des actes par contre, on peut parler des vols éventuellement, etc. Mais même là, on n'aura jamais les moyens de savoir le nombre de vols, le nombre même de viols, de tout ça qui augmente ou qui baisse. C'est pas possible. On aura juste les chiffres des institutions, et sociologiquement, les chiffres des institutions ne peuvent dire que sur l'activité des services, pas autre chose. Ça n'a aucun sens de dire le crime augmente ou il baisse. Les abolitionnistes critiquent le crime de ce point de vue-là, sur le fait que c'est une catégorie qui ne sert à rien en fait pour comprendre les situations dans lesquelles sont pris les individus, parce que c'est aussi une catégorie qui est réductrice. Les faits incriminés n'ont aucune similitude entre eux, au regard de l'impact concret qu'ils vont avoir sur la vie des personnes, et au-delà de ça, dans ce qu'on appelle crime, dans le code pénal, il y a juste une part, assez infime d'ailleurs, des torts et des préjudices qui peuvent faire souffrir les populations, on va dire, de la naissance à la mort. Il y a tout un tas de choses qui sont extrêmement néfastes pour les êtres humains et qui ne sont pas considérées comme crimes, et donc qui ne passent jamais par le système pénal non plus. Ça, c'est sur la construction même de catégories du crime qui est un problème pour les abolitionnistes. Ajouter à ça que cette construction crime, c'est une façon très judiciaire de voir la réalité, qui est souvent manichéenne et inopérante, qui va fonctionner selon des dichotomies, bonnes et mauvaises personnes, pour in fine chercher une chose. Donc par toute cette grammaire, cette culture artificielle qu'on va imposer, avec ces concepts, tu vois, tout un tas d'actes, on va essayer de les mettre ensemble pour dire que c'est la même chose, alors qu'en fait, on sait très bien que les situations sont complexes selon le passé des personnes entre elles, les interactions qu'il y a pu avoir. Mais tout ce qui intéresse le système pénal, c'est d'essayer de le relier à une catégorie pénale. Est-ce que c'est un viol? Est-ce que c'est un vol? Est-ce que c'est un vol par effraction? Est-ce que c'est un viol en réunion? Est-ce que sais-je? Ces abstractions-là décontextualisantes, pour les abolitionnistes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si notre but, à la base, c'est de régler les différends et les problèmes entre les personnes, et surtout de les prévenir. Et ce qu'ils dénoncent précisément, c'est que, d'une certaine manière, le système pénal n'en a rien à faire des situations en elles-mêmes et du point de vue des personnes. Tout ce qui les intéresse, c'est d'arriver à faire entrer dans une catégorie pénale pour pouvoir déclencher l'action répressive et incarner la responsabilité, ce qu'on appelle la culpabilité, dans un individu en particulier. Et donc là, on en revient à ta question directement. C'est ce que les abolitionnistes critiquent, c'est que là, le système pénal, depuis son origine, néglige totalement les intérêts et les besoins des victimes, des communautés et aussi des personnes qui sont coupables. Et Nils Christie, de ce point de vue-là, qui est un des auteurs abolitionnistes norvégiens, parle de vol des conflits. Ça, c'est un concept qu'a fait Flores. Après, il a été très repris, notamment par tous les courants de justice alternative à partir des années 80, parce que c'est central. C'est vraiment, lui, il considère que le droit pénal est un outil d'expropriation des conflits. C'est-à-dire qu'il va transformer des griefs en litige judiciaire, avec une mise en récit juridique généralement qui va dépasser les individus. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, eux-mêmes et elles-mêmes ne vont pas se reconnaître dans la façon dont on décrit la situation telle qu'elle s'est passée. Précisément parce que ce qui intéresse les juristes en général, c'est de relier à des catégories pénales. Donc en fait, de réduire la réalité.
La cage, c'est naze. Naze comme de jaser. Plus le temps de pleurer, les refs se mettent à gazer. Ils ont pris nos libertés. Putain, ils n'ont pas le droit, les salauds ont l'addition salée pour les gros bras. Braquage, blocage à terre, puis terminé. Passé, brassé d'argent, déterminé. On devient ce qu'on n'a jamais voulu être. Dans l'engrenage écœuré, accusé de mal-être. Je sais que toutes les filles au monde rêvent d'un prisonnier. Nos mères pleurent parce que tu tires sans raisonner. Gavé, GAV, sur le mur leur nom est gravé. Mandat de dépôt est maintenant sur le gravier. Les frères marchent à la recherche de leur espoir. Au pénitencier, tu sais, y'a pas de belle histoire. Ces portes closes, murs délabrés, fenêtres au barreau. Horizon bouché, forcé pour les forçages.
J'ai mis la barreau. Y'a moins de méga au QG, ça urgeait.
Cru pouvoir cruger,
les nôtres sont toujours jugés.
Nos prisons sont remplies d'insurgés.
trop de peine à purger. Y'a moins de méga au QG, ça urgeait.
Cru pouvoir cruger,
les nôtres sont toujours jugés.
Nos prisons sont remplies d'insurgés.
Combien regrettent leur passage derrière les quatre murs. Une expérience traumatisante a rendu nos grands plus mûrs. Soi-disant de prison, au bienfait pour se faire une répute. Mais en son sein, combien des nôtres y sont devenus les putes. Des chefs de clan en manque d'affection. Après l'étape du savon, on compte plus les infections. Et point de suture pour survivre, faut être une pointure psychologique. Face à soi-même, un fort mental pour rester logique. Les idées claires, sans ça, ça t'amène au suicide. L'espace d'un éclair, beaucoup y passent et même des caïds. Je vois pas l'intérêt d'un CV avec cette mention. À chaque histoire dans ton quartier, ton nom sera mentionné. La liberté est innée, sommes-nous nés pour être enfermés. Le refus du bagne devrait germer dans nos consciences. Ton image ternie, envisage pas de seconde chance. Même ta mif a trôni. Trop de peine à purger. Y'a moins de méga au QG, ça urgeait.
Cru pouvoir cruger,
les nôtres sont toujours jugés.
Nos prisons sont remplies d'insurgés.
Trop de peine à purger, y'a moins de méga au QG, ça urgeait.
Cru pouvoir cruger,
les nôtres sont toujours jugés.
Nos prisons sont remplies d'insurgés.
Chez nous un quart sont serrés, le reste incarcéré. Meurtre en série, dans un contagieux effet cancéreux. Dans votre société, quel est notre rôle? Les gars se râlent, sale héros, y'a plus de justice dans le milieu carcéral. Il se passe pas un jour sans cette peur, sans lâche koumoun. Mêlé au PD, au PD, fais gaffe à la douche commune. Voulu jouer l'homme, c'est en prison que tu croupis. Faut jamais flancher, reste la tête loin du pas, finir accroupi. Mur monotone, ambiance triste comme un solo monocorde. Mono de cote, GDG, la bataille se met nos coudes. Au quartier, les petites amphis, pour eux t'es quelqu'un. En fait t'es personne morte dans une cellule sans vie.
Avec sans G
et toxine, hors la loi libérée. J'envoie des litres de lait,
au nom de la prison sont libellés.
À défaut de faire l'amour, tu penses qu'à faire le mort. C'est dur de dormir, tu penses qu'à faire le mur.
Trop de peine à purger, y'a moins de méga au QG, ça urgeait.
Cru pouvoir cruger,
les nôtres sont toujours jugés.
Nos prisons sont remplies d'insurgés.
Trop de peine à purger, y'a moins de méga au QG, ça urgeait.
Cru pouvoir cruger,
les nôtres sont toujours jugés.
Nos prisons sont remplies d'insurgés.
Joël Charby, Shane Morris et Gwenola Ricordo, brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal aux éditions Luxe.
Est-ce que l'abolition de la peine de mort, donc c'est 1981, est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que on oblitère les analyses de classe? Les analyses de classe, il n'y en a pas. Hein.
Mais d'un point de vue abolitionniste, la plupart du temps, une abolition d'une peine, en particulier comme celle de la peine de mort, est forcément bienvenue en soi. Pour autant, quand tu regardes l'histoire des mouvements abolitionnistes, des théoriciens et théoriciennes abolitionnistes en France, tu vois que c'est quand même aussi un gros échec. Parce que ça correspond aussi à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et donc à un moment aussi d'essoufflement où on a coupé l'herbe sous le pied de plein de mouvements radicaux, et là y compris par exemple dans le domaine pénal. Et donc ça a cassé toute une énergie, et en plus il y a eu un effet tout insidieux avec la peine de mort qui fait que ça a augmenté les peines, la longueur des peines. Vu qu'il n'y avait plus la peine de mort, bon déjà la peine de mort n'était pas utilisée à la fin, et puis depuis des décennies ça faisait longtemps qu'elle était dans une forme d'essoufflement, mais c'est ça le côté un peu pernicieux de cette abolition de la peine de mort, c'est que déjà, elle a coupé un débat, elle a coupé une dynamique politique, et qu'ensuite, elle a créé des sortes de pénalisations, pour le coup, avec la prison.
C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de m'expliquer que l'abolition de la peine de mort, qui symboliquement était très bien, ça, on ne remet pas ça en question, le problème, c'est qu'en fait, ça a arrêté un débat qui pouvait y avoir, ça a endormi les personnes qui pouvaient être justement mobilisées contre la prison, etc.
C'est quand même important, même symboliquement, d'avoir la peine de mort qui est abolie. Et d'une certaine manière, les abolitionnistes sont pour rogner au fur et à mesure toutes les mesures pour essayer de diminuer la surface d'action du système pénal. Mais et bon, là, on pourra en revenir aussi du coup aux stratégies et aux différents mouvements, comment ils en sont pris dans les différents pays. Mais la plupart du temps, une fois qu'une mesure pénale est abolie, justement, l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas un dispositif répressif qui revienne de la même manière, mais de manière encore plus moins détectable. Et ça, ça a été tout l'enjeu de tous les mouvements abolitionnistes dans tous les pays depuis 50 ans. Donc de rester sur le qui-vive, de revoir ses stratégies, de revoir les cibles, pour faire en sorte que l'abolition n'aboutisse pas à une reconfiguration répressive dans d'autres domaines. Là, en l'occurrence, on abolit la peine de mort, mais en fait, tu arrives à un début d'une montée en puissance des peines longues dans les prisons, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ça, c'est pareil partout. Bon, en plus, après, il faut coupler ça aussi avec les années 80. Enfin, c'est pas juste lié à la peine de mort, mais c'est lié aussi au, pour reprendre les termes de Loïc Vacant, le sociologue français, à une baisse de l'état social, une montée de l'état pénal, et donc d'un recours à l'incarcération beaucoup plus massif pour traiter des problèmes sociaux. Et effectivement, comme tu dis, le fait que la peine de mort soit abolie, il y a aussi un côté humanitaire où on se dit, bon bah voilà, les aspects les plus exécrables de ce système ont disparu, on n'a plus besoin de s'en préoccuper.
Ça oblitère complètement une réflexion par rapport justement à cette histoire d'enfermement. Moi, c'est ça qui m'avait frappé. Tout est réglé maintenant, c'est la justice qui va s'occuper de tout ça. Ouais. Non. S'il y a, comme tu dis, une sorte de phénomène de recyclement des peines, à la limite, ça peut même embrouiller complètement ce que les luttes qui sont en cours contre l'enfermement et contre ce système de punition.
Oui, potentiellement, l'ennemi est moins clair. J'ai discuté il n'y a pas si longtemps avec Catherine Baker, qui est la préfacière de l'ouvrage, qui a écrit des textes abolitionnistes qui ont influencé quelques générations d'abolitionnistes. Et en 84, avec d'autres, elle écrit le manifeste abolitionniste, qu'elle a commencé déjà à écrire en 80, elle disait. Précisément au moment où Mitterrand est élu, dans mes souvenirs, elle va devant la prison de la santé, elle s'attendait à ce qu'il y ait une manifestation ou quelque chose, il n'y avait rien. Elle était en lien avec tout un tas de personnes emprisonnées, et elle s'est dit, ça va créer une dynamique de mobilisation. C'était tout le contraire dans les années qui suivaient. Et c'est de sa frustration, et avec d'autres, ils ont aussi voulu précisément réinsuffler une énergie abolitionniste et dire, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que l'abolition de la peine de mort, c'est bien, mais il faut continuer en fait le combat jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, il n'y a pas vraiment de bout. En fait, il n'y a jamais de bout. C'est ça, d'ailleurs, l'enseignement de tous ces mouvements abolitionnistes, mais c'est comme tous les mouvements politiques, je pense, transformateurs, il n'y a jamais de bout. Il faut toujours élargir les cercles de ce qu'on veut abolir ou abattre et construire parallèlement les systèmes qu'on a envie de mettre en place. Donc il y a un lien direct, en fait, même une volonté d'insister vraiment sur cette abolition de la prison et du système pénal à un moment où on abolit la peine de mort. Et d'ailleurs, ça fait l'actualité avec un livre récent qui a été sorti par le collectif L'Envolée, qui est peut-être le collectif le plus important anticarcéral depuis 20 ans ici en France, pour l'anniversaire de la peine de mort, donc c'était en 2021, avec un livre qui s'appelait, dans mes souvenirs, « La peine de mort n'a jamais été abolie ». Parce que la prison tue, et c'est ce que les abolitionnistes s'évertuent à dire depuis des décennies, c'est que la prison tue et continue à tuer. Et donc la peine de mort, on peut l'appeler autrement, mais elle continue à tuer, en fait, d'une certaine manière. Et on les laisse mourir dans les geôles. Et d'ailleurs, il y a dans tous les pays, depuis des décennies, tous les ans, il y a des mobilisations de collectifs qui rappellent tous les morts de la prison. Tous les morts aussi tués par la police, tous les morts, en général, qui sont pris par les institutions pénales. Il ne faut pas l'oublier.
Par exemple, aux États-Unis, je pense à deux prisonniers qui sont célèbres et pour lesquels on s'est mobilisé et qu'on se mobilise toujours. Moumia Abou Jamal et Léonard Pelletier n'ont jamais été jugés ni rejugés alors qu'ils n'avaient pas les preuves. Les preuves ont été complètement bidonnées. On ne les soigne pas. Ils sont en cellule. Ils n'ont aucun rapport avec les personnes, que ce soit sensoriel. C'est une sorte de condamnation à mort, mais en étant enfermé.
En France, on peut penser aussi à Georges Ibrahim Abdallah, qui est le plus vieux de voilà. France.
Exactement.
Et encore la même question. Et ça, on passe sous silence à chaque fois. On le laisse croupir à ad vitam aeternam dans les prisons.
My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row for more than 15 years.
To break free is to begin to heal the broken inner self, to save the soul from dancing with Shaitan. But you see, the battle wages on.
The battle wages beyond.
As we sit unified,
in trying to identify,
minutes are ticking away and seconds fly by.
And I can hear the piercing cry for freedom and thinking twice about sparing a dime.
Signing on a petition line, speaking out for what's right.
Raising your hand to question what's wrong.
And thinking twice could lose yet another life. Mumia Abu Jamal
sits framed beyond the solitary confines of his cell walls for crimes he never committed,
but instead for words he admitted, speaking out
for the silence,
teaching others
to find strength,
fighting back
against brutality,
standing up
against injustice.
Mumia Abu Jamal,
a people's hero, sits awaiting an unwarranted execution,
signed by injustices draped in death clocks. Minutes are ticking away and seconds fly by.
Let me bring it back home.
He is innocent. Kwang Chang Kao, an innocent civilian.
Asian man.
Shot to death in shady Sonoma County circumstances by brutal badges in front of his own home.
They claimed he appeared to take a threatening martial arts stance.
Kwang Chang Kao.
Father.
Husband.
Neighbor.
Hero to his children.
Let me bring it back home.
He is innocent.
As we sit unified
and trying to identify,
minutes are ticking away and seconds fly by.
But you see,
the battle wages on.
The battle wages beyond. To break free,
it's to begin to heal the broken inner self.
To break free,
it's to save the soul from dancing with Shaitan.
But you see,
the battle wages on.
The battle wages beyond. To break free
is to learn about the self.
To learn to extend the self.
To extend the self beyond the systematic doctrines they feed you.
Beyond these city walls.
Beyond your circle of friends.
To extend the self to fight for freedom.
To fight a system that enlists soldiers to step on those deemed
less than pure. To release our rage.
Unleash our voices.
Refuse and resist.
Stand in solidarity.
Those who persist to deny us our right to cry for justice.
To fight for freedom.
To live for peace.
To live for peace.
As we sit unified
in trying to identify,
minutes are ticking away and seconds fly by.
From Death Row, this is Mumia Abu Jamal.
Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Tu peux très bien dire, effectivement, en France, il n'y a plus de peine de mort, et tant mieux. Mais il y a d'autres formes qui sont tout aussi terribles et tout aussi insupportables. Vous parlez, tous les trois, de l'abolitionnisme syndical, institutionnel et révolutionnaire en Europe occidentale. Quelles sont exactement les définitions syndicales, institutionnelles et révolutionnaires ?
Donc, le livre, il a 5 chapitres. Le premier chapitre porte sur les idées abolitionnistes telles qu'elles sont développées depuis 50 ans, avec un regard surtout européen, mais où on considère aussi l'Amérique du Nord, même si les idées sont présentes bien sûr dans tout le livre, parce que enfin, les idées dans tous les mouvements, les idées sont portées. Donc. Mais là, c'est un peu un chapitre dédié aux idées, aux stratégies abolitionnistes depuis 50 ans. Le chapitre 2, c'est sur les mouvements abolitionnistes en France. Le chapitre 3, c'est sur les mouvements abolitionnistes en Europe, en dehors de la France, surtout Europe occidentale. Parce qu'après, il y avait le bloc de l'Est, mais c'était une autre histoire. Chapitre 4, c'est sur les mouvements abolitionnistes aux États-Unis. Et chapitre 5, c'est un mouvement un peu plus conclusif, où on essaye de voir comment on peut penser l'abolitionnisme, justement, et son évolution, donc depuis 50 ans, et puis les nouveaux enjeux qui apparaissent aujourd'hui, voir les perspectives qu'il y a aussi pour cet abolitionnisme dans le futur. Et à la fin, il y a une part en question, avec 6 questions principales, des questions qui reviennent tout le temps, quand on parle d'abolitionnisme ou d'abolition de la prison en général. Et donc on essaye de donner une base rhétorique très courte pour que les gens puissent ne serait-ce qu'avoir un début de réponse à donner à des gens simplement sans avoir à renvoyer à des bibliographies grosses et puis des bibliothèques qui tombent sur la tête des gens. Le chapitre 3, qui porte du coup sur l'Europe, en dehors de la France, on a essayé pour simplifier la lecture de le découper en 3 types d'abolitionnisme. Mais il faut garder à l'esprit que c'est ce qu'on appelle souvent en sociologie des idéotypes, c'est-à-dire que c'est des modèles comme ça, qui sont purs, qui ont l'air purs, mais qui en réalité s'entremêlent en permanence. C'est juste pour donner un peu 3 stratégies, enfin 3 sortes de grosses stratégies qui ont été développées en Europe, en termes abolitionnistes. Le premier, c'est l'abolitionnisme syndical. Dedans, on met les pays nordiques. Quand je dis nordiques, c'est-à-dire les pays scandinaves, donc Norvège, Suède, Danemark, mais nordiques du coup aussi, par exemple, la Finlande, donc le Royaume-Uni. Le deuxième, institutionnel, où on met les Pays-Bas et l'Allemagne en particulier, parce que c'est un peu les modèles les plus purs de ce qui a pu se développer dans ce sens-là. Et le troisième, on met l'Italie, qui est un cas qui se rapproche quand même beaucoup de la France. Donc dans l'abolitionnisme syndical, on l'appelle comme ça simplement parce que c'est des pays, donc là en l'occurrence les pays nordiques et le Royaume-Uni, où les mobilisations de prisonniers étaient massives dans les années 60-70. Ça a été vraiment parfois jusqu'à l'essentiel de la population dans les prisons qui était en révolte, au même moment. Ce qui est quand même pas le cas de la plupart des pays. Et donc c'est des pays où je revienne juste sur la base de comment s'est développé l'abolitionnisme au début. L'abolitionnisme pénal naît dans un moment très particulier dans les années 60, fin des années 60. Bien sûr, dans ce qu'on a appelé les années 68, pour faire très large, ou dans plein de pays. Les années 68, ça peut démarrer dès le début des années 60 dans certains pays et aller jusqu'au début des années 80 dans d'autres. Donc il y a tout un mouvement contestataire. La réinvention de différents sujets politiques, la volonté de bouleverser les données dans tout un tas de domaines. Et en l'occurrence, dans les prisons, il y a une décennie longue qu'on a pu appeler crise carcérale, mais qui était de mouvements de prisonniers massifs et de mouvements autour des prisons aussi, qui ont contesté directement les logiques de la prison et du système pénal. Ce qui est assez marquant, c'est de voir que dans tous les pays, au même moment, c'est plus ou moins la même chose. Parfois, il y a des circulations, mais parfois, il n'y en a même pas, et il se passe la même chose. Et donc, dans tous les pays, ce qu'on retrouve, c'est de manière inédite, parce qu'en fait, il y a toujours eu des révoltes de prisonniers depuis le 19e siècle. Et même après la guerre, on peut penser à des pays comme l'Italie, où il y a eu des très grosses révoltes de prisonniers, ou même en France, quand c'était les détenus algériens notamment, il y a eu des grosses révoltes. Mais ça n'a jamais duré très longtemps. Et là, le fait que ça dure une décennie, alors bien sûr, c'est discontinu dans plein de pays, mais c'est massif et répété, et d'une ampleur jamais vue, c'est précisément parce que les prisonniers, là, trouvent à l'extérieur des relais intellectuels, médiatiques, des étudiants, des professionnels, y compris des professionnels du secteur juridique ou même pénitentiaire, qui vont les aider, qui vont les relayer, qui vont relayer leurs paroles, parfois qui vont les aider à politiser leur cause. Et donc voilà, c'est une décennie où on a la prison et le système pénal qui deviennent des authentiques sujets politiques et médiatiques, alors qu'avant c'était pas le cas. Et on s'intéresse à eux. D'ailleurs, on verra qu'après ces années-là, à partir des années 80, il y a une prison qui retourne dans l'oubli, dans le silence. Alors que précisément, tous ces individus-là, que ce soit les prisonniers ou les gens qui voulaient les aider à l'extérieur, avaient cherché à faire sortir les informations et à mettre fin au silence qui régnait dans les prisons, faire savoir ce qui se passait à l'intérieur. Sur l'abolitionnisme syndical, par exemple, c'est simplement que c'était dans des pays où il y avait des mobilisations très massives de prisonniers, donc ils pouvaient mettre une grosse pression sur les administrations pénitentiaires, et souvent, à l'intérieur des prisons, il y a eu des syndicats qui se sont formés. Et il y avait aussi des organisations extérieures mixtes, souvent avec des prisonniers et anciens prisonniers et différents types de professionnels, étudiants, intellectuels, qui avaient un capital symbolique qui pouvait donner un peu du poids aussi à ces revendications. Ces organisations qu'on cite dans les pays nordiques et Royaume-Uni, ils n'avaient pas qu'une logique syndicale, mais c'était certainement le truc le plus marquant pour ces mouvements-là, avec la grève comme principal moyen d'action dans les prisons. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'abolitionnisme syndical. Ensuite, le deuxième donc idéotype qu'on développait, c'était avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Et là, c'est des pays, pour le coup, qui n'ont pas eu des grosses révoltes de prisonniers. Il y a eu quand même quelques révoltes ici et là, hein, mais où les mouvements, par contre, à l'extérieur des prisons, qui pouvaient contenir des anciens prisonniers et tout un tas d'intellectuels, la même chose que dans les autres pays. Mais là, ils ont eu des élaborations théoriques et des concrétisations jusqu'aux institutions assez importantes dans ces pays-là, malgré la faible mobilisation des prisonniers. On parle des Pays-Bas, on parle de l'Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que les Pays-Bas, c'est aussi un des pays où il y a deux des théoriciens principaux de l'abolitionnisme pénal qui sont actifs, Herman Bianchi et Lokulsmann, qui sont des universitaires, juristes, criminologues, donc en droit pénal. C'est un professeur de droit pénal qui dit qu'il faut abolir le système pénal. Lokulsmann est né en 23, Herman Bianchi aussi, ça c'est très marquant d'ailleurs. Dans ces pays-là, ils sont jeunes pendant la guerre. Au début de la guerre, c'est des adolescents. Les Pays-Bas sont occupés par l'Allemagne nazie. Et à la fin de la guerre, ils ont 20 ans. L'âge se fait incarcérer dans les camps de concentration. Aux Pays-Bas, ça a été massif, on ne se rend pas compte. Je pense qu'en France, ça, je ne sais pas, je ne crois pas que ça a été la même chose, mais il y a toute une partie de l'élite du pays qui, en temps normal, n'aurait jamais connu la violence de l'État, et encore moins celle de la prison, qui se retrouve incarcérée dans les prisons et dans les camps de concentration. Et c'est le cas de Lokulsmann et Herman Bianchi. Donc, après-guerre, aux Pays-Bas, par exemple, pendant 2-3 décennies, tu as ce qu'ils ont appelé là-bas une politique de la mauvaise conscience autour de la prison. C'est-à-dire que, y compris les juges, les avocats, tous les juristes, considéraient que c'était vraiment pas une solution, quoi, la prison. Il y a eu un peu des choses similaires en France quand on a voulu réformer les prisons après la guerre, comme beaucoup de résistants avaient été incarcérés, mais là, c'est vraiment marquant. Et donc, l'abolitionnisme, il s'ancre là-dedans. Donc, avec ces élites-là, qui vont être marquées dans leur chair par ce qu'est l'emprisonnement, et donc vont pouvoir beaucoup plus s'identifier à ce qu'est un prisonnier après. Dans ces pays-là, Pays-Bas, Allemagne, il va y avoir des réformes qui vont être obtenues par les abolitionnistes, et notamment le groupe principal aux Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle la Cornert Liga, c'est la Ligue Cornert. C'est un peu le Beccaria néerlandais, quoi. Un des premiers à avoir une sorte d'humanitarisme pénal à l'époque classique.
Dans une putain de cellule au premier étage. Gueule et quelques poussent un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Boxe ont commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes se mettent à saccager les pions. Avec des mitraillettes, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. fête, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle, y'a du baston dans la tôle, y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Chardy, Shahin Morris et Gwenola Ricordo, brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal, avec une préface de Catherine Baker aux éditions Luxe. La base sociale de ce mouvement-là, là-bas, qui n'est pas uniquement abolitionniste, hein, cette ligue, elle est très critique vis-à-vis du système pénal et de la prison, mais tu as quand même une partie qui n'est pas forcément abolitionniste, radicale, mais tu as toute une partie qui l'est. Et dans ce pays-là, contrairement à d'autres, ils ont une base sociale et politique importante parce que, comme je le disais, c'est l'élite du pays. Donc ils ont des relais énormes. Par exemple, un des gars qui sera premier ministre aux Pays-Bas dans les années 70, il sera dans la Kornhardtliga. Et c'est un des meilleurs amis de Lou Koolsman. Donc en fait, ils ont les accès. Ils ont les accès au Parlement, ils ont les accès au ministère, ils arrivent à décrocher tout un tas de réformes. Lou Koolsman, c'est aussi un des pères fondateurs de la politique des drogues aux Pays-Bas à la fin des années 60. Il fait un des deux rapports principaux qui permettra d'avoir la dépénalisation du cannabis. Dans les années 70 et jusqu'aux années 85, par exemple, à la tête de l'administration pénitentiaire, on a un sociologue progressiste qui s'appelle Hans Sulkens, qui lui est bien conscient des effets néfastes d'emprisonnement. En 75, t'as quelqu'un qui siège, hein, par exemple, un comité très important qui parle carrément d'abolir la prison. Parce que pour lui, c'est devenu une peine obsolète. C'est simplement pour dire que dans ces années-là, et en particulier dans ces pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est pas du tout totalement absurde de dire qu'il faut abolir la prison. Parce qu'on est dans des décennies aussi où dans la plupart de ces pays occidentaux, on a des politiques de décriminalisation. On est dans un contexte économique favorable, donc il n'y a pas de chômage de masse encore. Donc beaucoup de gens se disent en fait, finalement, demain, la prison ne sera pas forcément nécessaire. Ça, c'est pour les plus optimistes. Pour les moins optimistes, par exemple en France comme Michel Foucault, ils vont dire de toute manière, elle ne sera pas nécessaire parce qu'on aura d'autres instances disciplinaires pour remplir les mêmes fonctions. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu comme quand on abolit la peine de mort. C'est pas forcément bon de montrer cette face du pouvoir. Certainement qu'on pourrait faire la même chose sans avoir la peine de mort, c'est-à-dire par exemple la prison à vie. En tout cas, il y a tout un tas de personnes qui pensent que la prison sera bientôt abolie et qu'elle sera de toute manière obsolète. Elle l'est déjà en fait. C'est pour ça qu'on l'a appelée institutionnelle, c'est que dans ces pays-là, aux Pays-Bas et en Allemagne en particulier, il y a eu des traductions institutionnelles assez fortes en termes de réformes notamment et en termes d'inscription de ces acteurs abolitionnistes dans les institutions, dans l'université ou dans les institutions politiques qui est forte. Et troisième type d'abolitionnisme, enfin c'est une troisième voie, là c'est l'Italie. Comme je le disais, ça se rapproche pas mal du modèle de la France parce que là c'est des groupes, pour le coup révolutionnaires, qui vont, dans le cadre de leur lutte révolutionnaire, vouloir aussi abolir la prison. Vraiment en faire une lutte autonome en soi, mais dans le cadre plus général de ce projet révolutionnaire. Ça se rapproche de ce qui se passe en France, parce qu'en France, d'ailleurs, il y a même des liens directement interpersonnels et entre les groupes. En France, ceux qui ont vraiment commencé à politiser à fond la prison, c'est notamment les maoïstes, la gauche prolétarienne, par exemple avec Daniel Defer, qui était le compagnon de Foucault. Foucault s'est intéressé notamment parce qu'il était avec Daniel Defer et qu'il voulait avoir le capital symbolique de Foucault. Mais du coup, ces gens-là, ils vont directement voyager aussi en Italie, pour aller voir ce qui se fait de ce côté-là. En France comme en Italie, on a des énormes révoltes de prisonniers dans les années 70. Vraiment très très massives, avec parfois des parties ou carrément une prison entière détruite. Et donc dans ces deux pays-là, on a des groupes extra-parlementaires qui vont les relayer. Alors que dans les deux autres pays, tu vois, c'est pas forcément la logique des gens qui vont les soutenir, c'est souvent des professionnels, des gens bien intégrés dans le système, qui peuvent avoir des idées politiques plus ou moins radicales, mais c'est pas un groupe politique radical en soi qui va les aider. Alors qu'en Italie, par exemple, un groupe comme Lotta Continua, les prisons en Italie, c'est vraiment une histoire qui se fait de jusqu'à la fin des années 80, parce qu'après, ça finit avec les Brigades Rouges. Et donc, ça devient vraiment l'épicentre de la lutte révolutionnaire à partir d'un certain moment, à partir des années 70 notamment. La prison en Italie devient l'épicentre de la lutte révolutionnaire. La lutte avec les prisonniers n'est qu'une partie de la lutte révolutionnaire plus générale. Le but pour l'OTA Continua et d'autres, c'est d'allumer des feux un peu dans tous les secteurs pour faire advenir la révolution.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Est-ce que ça correspond aussi à toutes ces luttes, que ce soit en Allemagne, en France ou en Italie, à justement des formations politiques extrêmement révolutionnaires et extrêmement radicales, et également par la suite à des prisonniers politiques et des prisonnières politiques, où là ça a quand même fait quand même bouger pas mal de monde, que ce soit des brigades rouges, actions directes.
Ça dépend des pays justement, parce que la politisation de la prison ne se fait pas de la même manière dans tous les pays. Les pays du nord de l'Europe, en particulier les pays scandinaves, c'est vraiment lié à une révision de ce qu'on appelle la déviance, donc tous les déviants, y compris ce qu'on appelait les fous, les handicapés. Il y a une lutte des déviants, des luttes autonomes qui se développent dans les années 60.
C'est-à-dire, ça revient un petit peu à ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la déviance?
Donc c'est toute une approche politique du handicap, de la prison, de la folie qui se développe à ce moment-là. Et c'est ça qui fait qu'il y a toute une partie de la population qui se mobilise là-dessus, y compris les étudiants, les gens des classes moyennes, moyennes sup, qui vont essayer de se lier à ces personnes marginalisées, ces groupes marginalisés, et de favoriser leur parole autonome et leur action autonome. Mais ça se fait pas nécessairement parce que eux-mêmes seront, par exemple, incarcérés en tant que prisonniers politiques. Tandis que, en France et en Italie, il y a un lien direct avec l'incarcération des étudiants ou des ouvriers mobilisés en 68, enfin à la fin des années 60, et qui vont découvrir la prison. Et donc découvrir tout un monde qui peut-être n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer réellement dans la vie. Donc ça va les sensibiliser. Et c'est ça que je disais tout à l'heure sur la gauche prolétarienne, c'est le point de départ des maoïstes de la gauche prolétarienne qui veulent s'intéresser à la prison, c'est parce que précisément ils sont victimes de la répression et qu'il y en a qui se retrouvent en prison. Et donc ils disent au début on va développer des enquêtes pour faire savoir ce qui se passe un peu à l'intérieur pour les prisonniers politiques et après en étendant à tous les prisonniers. Avec le mot d'ordre qui revient à la fois en France, en Italie et dans plein d'autres pays, pour dire tout prisonnier est politique. Et c'est ça la rupture, parce qu'en fait depuis le 19e il y a aussi une politisation de la prison autour de la question de la répression politique. Mais là, c'est un moment, dans les années 70, où on dit tout prisonnier est politique, donc on va considérer aussi les droits communs. Alors que pendant des décennies, notamment dans la doxa marxiste classique, on avait tendance à considérer que cette catégorie de criminels, entre guillemets, ne pouvait pas accéder à une conscience de classe, et qu'elle était souvent la catégorie des classes populaires sur lesquelles s'appuyaient, donc le lumpen prolétariat, les classes dominantes, dans un sens réactionnaire. Et donc on pouvait les acheter, c'était un peu des mercenaires pour les bourgeois, pour les retourner contre le peuple. Alors que là, dans les années 70, mais parce qu'il y a aussi un peu cet esprit libertaire à mon avis, parce que dans la tradition libertaire, ça n'a jamais été stigmatisé de la sorte, le criminel a été plutôt bien vu, contrairement aux marxistes, et ben là, on se dit justement, on peut faire la révolution à partir de toutes ces catégories, y compris celles qu'on appelait avant le mouvement prolétariat. Et donc, voilà, en Italie, en France, t'as cette logique où il y a des liens directs, une politisation qui se fait, notamment parce qu'il y a une répression donc des mouvements de 68. En Suisse, ceux qui vont politiser la prison, c'est pas parce qu'il y a une forte répression des mouvements de 68, parce qu'elle est assez marginale. Mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objecteurs de conscience qui se retrouvent incarcérés. Et donc là, tu regardes l'histoire des mouvements des prisons en Suisse, et c'est surtout par ce biais-là que ça s'est fait. Donc encore une fois, des gens des classes moyennes qui se retrouvent incarcérés et qui découvrent la prison, et donc soit ils se retrouvent pris dans un engrenage où en fait ils rentrent dans une forme de marginalité, de lutte dans la prison, et puis à l'extérieur, des formes de criminalité. Dans les années 80, il y en a qui veulent imiter un peu ce qui se faisait en Allemagne, en Italie, mais d'autres, simplement, ils découvrent la prison et ils veulent faire savoir ce qui se passe.
Il y a même eu un moment où on refusait l'appellation de prisonnier politique.
Dans certains pays, on refusait l'appellation de prisonnier politique, mais ça, c'était le pouvoir qui ne voulait pas dire qu'il réprimait pour des raisons politiques, parce
exact.
Que dans une démocratie, ce n'est pas possible, ça
ah
n'existe
bien
pas.
Entendu.
Alors que là, c'est vraiment les militants qui disent... Non, c'est-à-dire que nous, d'ailleurs, au début, les gens de la gauche prolétarienne disent, nous, on pourrait revendiquer, et d'ailleurs, au début, ils voulaient revendiquer le statut de prisonnier politique simplement pour pouvoir plus s'organiser, pour militer, etc. Et très vite, en fait, ils disent non, on n'a pas à se séparer des autres, et au contraire, ils veulent... du coup politiser toute la prison. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui apportent la révolte en prison, parce que ce n'est pas le cas. Il y a déjà des mobilisations autonomes et très massives de prisonniers à ce moment-là, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais c'est une étincelle supplémentaire pour les révoltes en prison, en fait. Parce que du coup, il va y avoir une politisation croisée, à la fois des prisonniers qui vont découvrir les militants politiques et puis tout leur savoir-faire organisationnel, etc., et les autres qui vont découvrir la prison et tout ce monde, et qui vont aussi être sensibilisés à cette question-là, et souvent pour des décennies, voire pour la vie.
Thank you. système correctionnel qui tue correctement. N'être plus que l'ombre de soi-même dépouillée de son humanité. Seul air dans ce froid couloir, l'écho d'une âme désespérée de nourrir le sang des démocraties pour l'arbitraire d'une justice. Procès bâclé, preuves dissimulées, droits bafoués, liberté volée, à terre, à tort, plus d'espoir dans cette prison. Et face à l'inanité d'une peine qui ne vaut bien que la haine, qui rendra ces années arrachées à tous les condamnés à tort. Une vie brisée, mort assurée, l'absurdité d'une justice exigeant pour tout sacrifice un innocent à condamner, le sang d'un être à immoler. Serait-ce donc le prix à payer pour obtenir réparation avec dommages et intérêts? La mort de l'autre restera-t-elle toujours l'unique solution? Non! Car nul besoin de le savoir, notre homme est noir, il faut le croire. Cela se passe aux têtes sous les statistiques, sans cesse révèle un dysfonctionnement du système judiciaire. Un doigt dans l'engrenage, c'est un pied dans la tombe. C'est une âme qui succombe au soubresaut d'une mentalité indigne, héritière des temps passés de l'esclavage.
Procès bâclé, preuves dissimulées, droits bafoués, liberté volée. Procès bâclé, preuves dissimulées, droits bafoués, liberté volée. Procès bâclé, preuves dissimulées, droits bafoués, liberté volée. Procès bâclé, preuves dissimulées, droits bafoués, liberté volée.
Nous ne sommes plus à l'aube de l'an 2000. Avec mon microphone, je vise dans le mille.
Écoute ça,
le nouveau millénaire, ma millénaire. Condamnation d'un journaliste black, ancien membre des Black Panthers, à cause du meurtre d'un agent de police. Quand je vois ce qui se passe là-bas, dans ce pays champion de la peine de mort, mon gars.
1976,
réinstauration de cette peine. De nos jours, ce n'est pas acceptable. Est-ce bien concevable? Qui a dit que l'on pouvait condamner des écrivains et journalistes? La liste est grande, des hommes dans un long couloir
qui n'attend
que la mort. Mais encore, faut-il les laisser faire?
Non!
En matière crise possible, il faut qu'on s'arme
aussi.
Et puis qu'on s'associe contre les têtes.
Procès bâclé, preuves dissimulées, droits bafoués, liberté volée. Procès bâclé, preuves dissimulées, droits bafoués, liberté volée. Procès bâclé, preuves
dissimulées. Joël Charby, Shane Morris et Gwenola Ricordo, brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal aux éditions Luxe. C'est à partir des années 60-70, c'est que tu as des figures de prisonniers qui émergent dans l'espace public, mais comme sujets politiques autonomes, représentant souvent un collectif ou les prisonniers en général, mais qui vont parler pour eux-mêmes. Par exemple, en France, il y a Serge Livrozet, Jacques le Sage de La Haye, on a fait un encadré sur lui. La gauche prolétarienne lance un peu Foucault sur cette question des prisons, et donc il y a le groupe d'information sur les prisons qui se lance en 71. De 71 à 72, ils font leurs actions, ils mobilisent sur la question, ça rentre dans l'espace médiatique, mais après ils laissent la main au comité d'action des prisonniers. Parce que c'était le but depuis le début, et comme dans plein de pays, ils veulent donner la parole aux prisonniers, de manière autonome. Et donc dedans, t'avais des gens qui étaient dans le groupe d'information sur les prisons, comme Serge Livrozet, qui après a écrit un livre, lui, en 73, qui s'appelle « De la prison à la révolte », qui a quand même pas mal marché à l'époque, était préfacé par Foucault. Encore une fois, Foucault, il met son capital symbolique pour les prisonniers. Plus tard, dans les années 80, quand il y aura une deuxième vague de lutte dans les prisons, liée à la répression, ou ce qu'on appelait les QHS, quartiers de haute sécurité, il mettra encore une fois son capital symbolique. Pour faire la préface, par exemple, d'autres prisonniers dans la lutte des QHS, par exemple, Nobel Peace. C'est pareil, il fait la préface, donc à chaque fois, il a essayé de pousser. Parce que forcément, quand tu as une préface de Foucault, ton livre, on va le considérer un peu différemment. Et donc là, ce qui est intéressant dans ces années-là, c'est que tu retrouves des Serge Livrozet dans plein de pays. Quand je dis Serge Livrozet, c'est-à-dire des figures qui commencent à sortir des livres, qui deviennent même des écrivains, en fait. On a des nouveaux témoignages de la prison qui sont pas sous un angle sensationnel ou qui sont écrits par des sociologues, qui sont vraiment des prisonniers eux-mêmes qui écrivent et sur un ton assez radical. Tout est dit dans le titre de Serge Livrozet, c'est de la prison à la révolte. Comment lui, en tant que, comme il se qualifiait de délinquant comme ça, ordinaire des classes populaires, il en est arrivé à vouloir faire la révolution. Et donc ça, on en trouve dans plein de pays des écrivains comme ça, prisonniers, qui prennent la plume, qui portent la parole des prisonniers dans l'espace public. Enfin, ça, c'est une rupture assez radicale. On a forcément, du coup, une autre vision de la prison à partir du moment où on a le point de vue de ceux, entre guillemets, qui sont d'en bas. Et ça, c'était tout le but des années 68, c'est de donner cette perspective des gens qui ont toujours été dominés, des opprimés. Mettre en avant leur perspective, et plus celle, le discours que la prison a toujours voulu d'elle-même, des élites pénitentiaires, avec leurs réformes et avec leur bien-pensance, comme on dirait. Là, c'est vraiment la vision de ce que c'est d'être incarcéré, de faire partie de ces classes de population qui passent par les prisons, mais qui sont aussi opprimées dans tout un tas d'autres domaines.
J'aimerais bien que tu me dises un mot sur Jacques Lesage de La Haye, parce que quand même, il y avait son émission qui a commencé en 89, et son émission, donc Ras les murs, était une émission qui était extrêmement suivie, où ouais. Il y avait justement des rapports avec les prisonniers, puisqu'il y en avait qui passaient en direct, etc. C'était une émission vraiment très intéressante, qui donnait la parole aux gens qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'entendre. Et d'ailleurs, l'émission a été attaquée, je crois, une fois assez fortement par le gouvernement. Radio Libertaire, c'est-à-dire la Fédération anarchiste, a été condamnée.
Dans le livre, on a différents encarts.
C'est un peu pour donner des repères à l'intérieur du bouquin, c'est ça ?
C'est des repères, mais c'est aussi parfois des choses qui ne s'intégraient pas forcément dans le récit global pour raconter tout un pays et ses luttes depuis 50 ans, mais qu'on voulait mettre en avant. Et là, en l'occurrence, par exemple, dans le chapitre 2, on voulait mettre en avant, par exemple, les revendications des prisonniers en 72, par exemple les 12 points du comité d'action des prisonniers.
En plus de ça, c'est d'une clarté absolument incroyable.
C'est ça partout. Enfin, et c'est pour ça que ce serait intéressant de, parfois de remettre au goût du jour ces textes-là, parce qu'en fait, ils sont tout aussi pertinents. Et peut-être qu'on manque un peu en plus de ces envolées lyriques aujourd'hui sur ces questions-là. Là, il y avait un encart aussi qu'on a voulu faire sur Jacques Lesage de La Haye. Alors souvent, Serge Livreset est peut-être plus connu dans certains milieux. Mais d'ailleurs, les deux qui étaient au comité d'action des prisonniers, et avant au GIP, donc au groupe d'information sur les prisons, ont eu des émissions sur Radio Libertaire. Dans les années 80 notamment, Radio Libertaire a été une radio hyper importante pour cette perspective anticarcérale, pour la propager, et jusqu'à aujourd'hui en réalité. On a un encart sur Jacques Lesage de La Haye, simplement parce que ce qui est intéressant chez lui, c'est aussi qu'il a traversé différents types d'organisations et dans les différentes décennies. Tandis que Serge Livreset, c'est un peu plus, à partir des années 80, a été un peu moins actif, assez désillusionné sur tout un tas de points au niveau des luttes. Alors que Jacques Lesage de La Haye, donc, il est d'abord proche du groupe d'information sur les prisons. Donc d'abord, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est né en 38, qui a été incarcéré pendant un peu plus de 11 ans à la prison de Caen pour divers actes. Et donc, en détention, il fait des études, il passe le bac, et après des études en psychologie. Et donc après, il est un proche du groupe d'information sur les prisons en 71-72, puis après membre du comité d'action des prisonniers, qui est la continuité, mais tenue par les prisonniers, de ce groupe-là, en 73. Il cofonde ce groupe-là avec le comité d'action des prisonniers, avec Serge Livreset et Gérald Dittmar. Et en 74, il fonde aussi avec Livreset et avec d'autres un mouvement qui s'appelait Marge. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce que je te disais sur la volonté de politiser toutes ces questions des groupes marginalisés. Que ce soit les prisonniers, les personnes handicapées, ceux qu'on appelle les fous, ceux qu'on appelle les prostituées ou que sais-je. Et donc c'est tout un agglomérat vraiment, parce qu'en fait, il y avait des liens forts. Et si on peut citer ce que disait Jacques Lesage de La Haye dans un de ses livres sur l'antipsychiatrie en 2006, « La mort de l'asile », il présentait ce groupe comme un rassemblement de délinquants, psychiatrisés, toxicomanes, prostituées, féministes, post-féministes, homosexuels, proches du Front homosexuel d'action révolutionnaire, puis du groupe de libération des homosexuels et de beaucoup d'autres marginaux. On y a vu aussi des intellectuels, psychiatres, psychanalystes, psychologues, sociologues, journalistes, philosophes, écrivains. En bref, il dit « c'est une auberge espagnole et un melting pot invraisemblable ». C'est ce groupe Marge qui est à la fois à l'image de beaucoup d'autres groupes, que ce soit autour des prisons ou de toute cette circulation qu'il y a entre les différentes luttes de groupes marginalisés dans ces décennies-là, 70-80 notamment. On a voulu mettre en avant Jacques Lesage de La Haye parce qu'il est passé par tous ces groupes d'information sur les prisons, comité d'action des prisonniers, Marge, et dans les années 80, il joue un rôle dans une association, une sorte de syndicat des détenus qu'on appelait l'association syndicale des prisonniers de France. Et ensuite, avec tout son rôle aussi dans la radio, dans le fait d'avoir propagé ces thématiques anticarcérales pendant des années via ses émissions sur Radio Libertaire, ou plus récemment encore, en 2019, il sortait son livre « L'abolition de la prison », qui a été traduit en anglais d'ailleurs aux États-Unis assez récemment.
Il a eu un rôle extrêmement important. C'était une émission hebdomadaire de 2 heures. Et donc, c'était où les gens pouvaient, les prisonniers pouvaient, les prisonnières pouvaient s'exprimer en direct. Et c'était vraiment une émission extrêmement importante et extrêmement suivie.
Bah, le problème, bien sûr qu'on peut fermer les prisons, mais la pauvreté est criminalisée. Donc, les pauvres, on va les mettre où? On va leur donner à chacun 10 000 francs par mois? La bourgeoisie veut pas ça. Maintenant, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que la prison a une utilité sociale. Voilà, parce que c'est un pilier de la société. Donc, pas les gens, parce que les gens viennent en prison, les pauvres viennent en prison. Les gens le savent maintenant, hein. Ils sont pas dupes. Ce qui les fait ne pas agir, c'est parce qu'ils veulent pas être mis dans la charrette. Ouais, mais les gens savent que la prison est une, et quelque chose d'inscrit dans l'ordre social.
Donc dans le chapitre 2 sur la France, on a par exemple aussi un encart sur les 12 points de revendication du comité d'action des prisonniers en 72, quand il est créé, décembre 72. On cite d'abord les 12 points qui aujourd'hui parlent assez à peu de personnes parce que c'est sur les conditions de détention en particulier, les différents droits qu'ils aimeraient bien avoir. Par exemple, la suppression du casier judiciaire, l'interdiction de séjour, suppression de la peine de mort, parce que c'était avant 80, tutelle pénale, la question du travail aussi en prison qui revient dans tous les mouvements de ces années-là et encore jusqu'à aujourd'hui qui est toujours pas réglée. Les questions de parloir, de correspondance, etc., etc. Donc ça, c'est dans le premier numéro du journal du comité d'action des prisonniers, le CAP. En septembre 73, quelques mois plus tard, ils insèrent une 12e revendication à la plateforme qui était censée être évidente et implicite, disent-ils, mais qui est la conclusion majeure de leur manifeste. 12e point du CAP, suppression de la prison. Et ils ajoutent, pour le justifier, « Nous sommes contre la réforme qui ne vise qu'à la réforme dans la seule intention de perpétuer le système répressif en paraissant le rendre plus supportable. » Une prison ne s'aménage pas. Elle se détruit ou bien elle vous détruit. Il s'agit de savoir ce que l'on préfère. La force de tous les pouvoirs à ce jour, c'est d'avoir réussi à faire croire à tous et jusqu'aux détenus eux-mêmes que la prison est indispensable, alors qu'elle ne constitue que l'un des moyens de protéger un ordre imposé. La majorité des gens nous dira alors, mais que faire dans ces conditions des voleurs et des criminels? Ce à quoi nous répondons qu'une société n'a de voleurs et de criminels que dans la mesure où elle est voleuse et criminelle elle-même. Le travailleur est volé de sa production, et la seule solution qu'il ait trouvée à ce jour, c'est de se battre en volant à son tour. En ce qui concerne les prétendus criminels, ils sont assez peu nombreux pour se dire qu'ils le seraient encore moins si nous vivions dans une société moins violente et un peu plus humaine et fraternelle. Il faudrait de toute façon se lever de bonne heure pour arriver à la cheville des tueurs patentés reconnus et agréés tels que les industriels, les marchands d'alcool, de voitures, de canons, de nourriture, etc. Amis, copains, camarades, il est temps de s'unir, de refuser la culpabilité à sens unique dont nous chargent les pontes légalistes de cette société. Unissons-nous avec tous les exploités, tous les emprisonnés, ouvriers, immigrés, orphelins, handicapés, internés, etc. Ne cherchons plus à aménager nos conditions de vie, refusons-les. Refuser la culpabilité à sens unique. Vous nous accusez, mais qu'est-ce qu'on va faire des violeurs, des criminels? Mais ils disent, mais qui sont les criminels? Donc encore une fois, on va redéfinir, on va repolitiser, reproblématiser, comme dirait Foucault, la question de ce qui est criminel, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui cause le plus de dommages et de préjudices à la société? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle les criminels aujourd'hui, les petits délinquants? Ici, différents types d'industriels qui causent vraiment des torts avec des conséquences sociales dévastatrices, qui ne sont même pas qualifiés de criminels.
Là, il y a vraiment tout. Et puis, il y a aussi, maintenant que s'ajoute de plus en plus la question environnementale, ça double encore, disons, l'interprétation qu'il peut y avoir justement des criminels.
Ça, on y revient dans le chapitre 5, quand on essaie de voir les nouveaux enjeux avec lesquels l'abolitionnisme se confronte et se mêle, notamment sur les questions de genre, sur les questions de handicap, de psychophobie et des choses comme ça, et sur la question d'écologie aussi. Et ça, c'est vraiment que c'est un thème émergent depuis au moins la dernière décennie, en lien avec le développement de ce qu'on a appelé la criminologie verte, dans les pays notamment anglophones, puis les années 90, ou la géographie abolitionniste. Et reviennent vraiment beaucoup sur ces liens. Décentrer encore une fois le regard entre ce qu'on appelle le crime ici en général dans l'espace public et ce qu'on fait au niveau de l'environnement. Et de tous les liens même avec la construction de prisons et les conséquences environnementales que ça peut avoir sur les liens entre extraction des terres et oppression des populations, même on pourrait dire accaparement des corps.
On parle beaucoup de la prison, des peines, etc. L'abolition de la police, c'est le premier chaînon. On glisse vers les violences policières. Que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis, bon, je sais que là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à Black Lives Matter. En France, on parle des violences policières. Ou à Radio Libertaire, on en a souvent parlé. J'ai reçu des groupes de personnes victimes et qui sont traitées non pas comme victimes, mais comme criminelles. Vous parlez dans le bouquin « Affaiblir, désarmer, démanteler ». Même le titre, « Brique par brique, mur par mur », c'est-à-dire comment est-ce que justement vous détruisez?
Toutes les luttes abolitionnistes montrent que ça n'a aucun sens d'avoir un programme défini. Mais bon, je pense que c'est la même chose d'un point de vue révolutionnaire. Tu ne peux pas définir maintenant, dans un système tel qu'il est, un programme clé en main qui permettra de que tout se passe bien.
Comme tu dis, c'est une lutte qui continue et ça n'aura jamais de fin. Donc, en l'occurrence, par rapport justement aux violences policières, là, ça brûle.
Il y a l'analyse et après, du coup, qu'est-ce qu'on propose? C'est aussi un peu une interrogation qu'on a eue et on n'est pas les seuls. Mais c'est intéressant de voir que les réflexions abolitionnistes... Quand le mouvement s'est développé à partir des années 70, c'est d'abord focalisé sur la prison. Ensuite, au fur et à mesure du temps, ils ont élargi leur perspective. Notamment à partir des années 80, ça s'est développé de la prison au système pénal en général. Tout simplement parce que c'était aussi une époque où on parlait beaucoup des peines alternatives, comme on les appelle aujourd'hui, et qu'en fait, ils se rendaient compte que c'était bien de parler des peines alternatives, mais ça ne changeait pas d'abord les logiques de criminalisation, de qui se retrouvait dans les mailles du système pénal, donc toutes les logiques même, on pourrait dire, structurelles, économique et sociale de la criminalisation. Et en plus, plus tu mettais des mesures alternatives en place, plus en fait, enfin, la prison ne diminuait pas, mais par contre, tout un tas de choses qui avant n'étaient pas pénalisées parce que les juges se disaient, bon, la prison c'est peut-être un peu beaucoup pour ça, on leur mettait des peines alternatives. Donc en fait, il y avait ce qu'ils appellent en sociologie une extension du filet pénal. Vu que c'est la logique pénale en général qu'on refuse, il faudrait parler plutôt d'abolitionnisme pénal. Ensuite, au fur et à mesure des décennies, ça s'est encore élargi. Après, à partir des années 2010 notamment, enfin 2000-2010, il y a eu une extension des luttes qui s'est faite même au-delà du pénal, c'est-à-dire à tout un tas de formes punitives ou de contrôle social qui sont extra-pénales ou pas pénales. Par exemple, l'enfermement des personnes sans titre de séjour, donc les CRA, les centres de rétention administrative. La revendication d'abolition de la police, vraiment, de manière systématique, est venue seulement à partir des années 2010, et surtout la fin des années 2010, avec le summum qui a été en 2020. Après, il y a eu le mouvement George Floyd aux États-Unis, après son meurtre par Derek Chauvin. Donc là, c'est là qu'il y a eu aussi une mainstreamisation, une popularisation inédite des mots d'ordre abolitionniste dans l'espace public, dans les médias. Il y a eu un accès fou des récupérations par des politiques locales, pas forcément toujours dans un sens vraiment, entre guillemets, purement abolitionniste, c'est-à-dire que parfois ils voyaient juste une occasion pour eux de réduire des budgets, parce qu'il faut bien voir comment la police est structurée aux États-Unis, c'est un délire pas possible. Il y a des polices à tous les niveaux, y compris dans les écoles, parfois dans les universités. On va supprimer cette telle police, mais vous inquiétez pas, il y a quand même une police au niveau de l'État, ou enfin, il y a toujours des polices. C'est le point d'entrée dans le système pénal. Pourquoi cette question n'a pas été considérée davantage d'un point de vue abolitionniste par les abolitionnistes des années 70 et 80?
Illustration musicale, J.X., oui madame, Toxin, trop de peine à purger, I was born with two tongues, from Mumia, le jour de l'addition, il y a du baston dans la tôle, DeAndré, nella mia ora di libertà, Guelem, liberté volée, bien sûr qu'on peut fermer les prisons, enfin, Bruce Springsteen, Murder Incorporated. La source, un film de Myriam Jobber. Aïcha et Brahim vivent dans un village reculé de Tunisie. Deux de leurs fils sont partis sans explication pour mener la guerre de Daesh. Guerre que les parents ne comprennent pas et ils sont sans nouvelles de leurs enfants depuis. Sont-ils encore vivants? Le dernier fils est encore adolescent, il rêve de ses frères aînés et il entretient une relation familiale avec Bilal, un ami d'enfance de ses frères, policier, qui quadrille la région. C'est alors que l'un des frères revient avec une mystérieuse femme voilée et mutique. Les parents, la mère surtout, décident de ne pas signaler ce retour par crainte d'interrogatoire et d'incarcération. Parallèlement, Bilal enquête sur des disparitions, des morts inexpliquées, qui interviennent toujours la nuit. Ses suspicions ne tardent pas à le mettre sur la piste de la famille. La radicalisation islamiste n'est pas directement le thème du film. Maryam Jobert l'aborde de manière plus universelle en soulignant le fait que c'est révélateur du fondamentalisme de manière générale. J'étais curieuse de connaître les blessures familiales et personnelles qui peuvent mener quelqu'un vers une idéologie extrême. Ayant grandi aux États-Unis après le 11 septembre et en Tunisie après la Révolution, j'ai observé une montée significative du conservatisme et de la radicalisation en réponse à l'incertitude. Ce qui m'intrigue, c'est le point commun entre les personnes poussées à rejoindre un groupe radicalisé ou d'adhérer à une idéologie extrême ou à une secte. Cela semble provenir d'un intérêt commun, une quête de sens, une recherche de sécurité dans les moments de peur, un désir de communauté ou un exutoire pour les blessures personnelles, la colère et le ressentiment. Il est facile de qualifier quelque chose de purement diabolique et de prendre ses distances. Mais il est essentiel de comprendre les racines du problème avant de s'y attaquer. Et pendant le tournage, mon attention s'est particulièrement portée sur les personnages féminins de la famille, la mère et la femme syrienne ramenée par le fils. Cette fascination a donné naissance à la source. J'avais envie d'approfondir la perspective féminine à travers les thèmes de la maternité et de la victimisation des femmes. Peu à peu, la présence des femmes devient le moteur de l'histoire qui bascule dans un conte tragique. Ce mélange de fantastique, tout en traitant du contexte politique et social, est original. Il se détourne du thème habituel de la radicalisation et s'attache plutôt aux conséquences de celle-ci sur l'imaginaire, les rêves et le subconscient. La représentation de la femme voilée en sorte de némésis souligne l'aspect émotionnel profond de l'impact sur les victimes directes et collatérales d'une idéologie extrême, sur les femmes en particulier. La source, avec cet aspect fantastique que le film adopte dans un climat de tension et d'enquête de meurtre, en quelque sorte expiatoire, éclaire une nouvelle façon d'analyser le problème de l'embrigadement et ses conséquences. La source de Maryam Jobert au cinéma le 1er janvier. Tout ira bien, un film de Ray Young. Entretien avec Ray Young. Depuis plus de 30 ans, Angie et Pat vivent ensemble leur amour à Hong Kong. En parfaite harmonie avec la famille de Pat, qu'elles aident et sont très appréciées dans leur quartier. Mais contre toute attente, au brusque décès de Pat, la place de Angie dans la famille change. Et à la douleur extrême de la perte de la femme de sa vie s'ajoutent des humiliations et une perte d'identité au sein de la famille qui remettent en question son amour et la place qu'elle avait au sein de leur couple. Après un printemps à Hong Kong qui parle d'un premier amour queer, Tout ira bien est-il une sorte de continuité de ce précédent film?
Well, it's very different in the sense that the two men, because they both have families and they are both in a closet in a certain mm-hmm. way. And so very much the story for that movie is almost about a first love, two people falling in love, and there's a lot of passion and sex orientated around that and about them trying to find their own identities. With this particular All Shall Be Well, it's different because the two women have been living together for many years And it's not about just the passion, but it's also about the intimacy, the relationship. And it's more when I focus is the small details in life, the routines that they have, because they've been living together for many years. And so it's about the understanding of each other's daily habits, those small things that I want to capture. So that is the really not more about the gender, but much more about the nature of the difference of the relationships.
En effet, c'est donc deux films qui sont très différents, parce que pour notamment le premier film, donc avec le couple homosexuel, ils avaient chacun leur famille et ils n'avaient aussi pas fait leur coming out, ils étaient donc dans le placard, comme on dit. C'était aussi l'histoire d'un premier amour, d'une première histoire d'amour, donc il y avait beaucoup de passion, beaucoup de sexe aussi, et il y avait cette question pour eux de trouver leur propre identité. Mais pour Tout ira bien, c'est tout à fait différent, parce que c'est une relation où on voit pas seulement de la passion, on voit aussi beaucoup d'intimité, parce que entre le couple lesbien, on voit beaucoup plus des détails de leur vie, leur façon de se comprendre et de se connaître l'une et l'autre, parce que comme on l'a dit, elles vivent ensemble depuis plus de 30 ans. Cette différence entre les deux films, c'était pas tant pour faire l'un sur le genre masculin, une relation homosexuelle, et l'autre sur le genre féminin et une relation lesbienne, mais plutôt de voir la différence dans la nature de la relation de chaque film.
In the movie In All Shall Be Well, you can see that on the surface it seems it's very open. But in reality, there is still a lot of homophobia and a lot of discriminations, you can say. And that doesn't take a lot to expose itself and come forward, as you can see in the movie.
Pour ce qui est de la question de l'acceptation de l'homosexualité à Hong Kong, donc comme on voit dans Tout ira bien, sur la surface, c'est très ouvert, c'est très accepté, très toléré. Mais en réalité, il y a quand même encore beaucoup d'homophobie et de discrimination qui sont associées, mais qu'on ne voit pas forcément sur la surface. Ça va beaucoup être plus intériorisé et discret que ça.
Pourquoi Tout ira bien ? Parce que non, ça va pas bien.
Because when I researching for the script, I interview a lot of lesbian couples who have been together for many years. And I asked them whether they have made a will. And then a lot of them said no. So I said, why not? So they said, because if I'm not here, my sister or my brother would know what I want. So I said, that's interesting. So you have a partner here with you for many years. If you're not going to be around, your partner's welfare is going to depend on what you think your brother or sister would guess. So they said, I think it's okay, all shall be well. So therefore I said, okay, that is too optimistic. So I'm going to use that as a title to say that, you know, you should never be too optimistic about these things.
Quand il faisait les recherches pour le script, il a rencontré et discuté avec beaucoup de couples lesbiens et il leur a notamment demandé si elles avaient fait un testament. Et quand elles leur répondaient que non, il demandait mais pourquoi. Et en fait, ces personnes, ces femmes étaient persuadées et lui répondaient qu'elles savaient que quand la personne allait partir, quand elle sera plus là, que sa famille, que ce soit son frère ou sa sœur, il allait savoir ce qu'elle voulait, ce qu'elle aurait voulu après son décès. Et Ray s'est demandé, ah donc tu penses vraiment que ta famille va pouvoir, vous remettez dans les mains de votre famille vos volontés, ce que vous voulez. Et les couples lesbiens en face disaient oui, je me fais pas de soucis, tout ira bien, all shall be well. Et du coup, Ray s'est dit que c'était une réponse très optimiste et qu'il voulait l'utiliser pour un titre pour voir justement à quel point cet optimisme pouvait parfois faire défaut.
Je pense au frère de Pat qui est. C'est un type assez faible, assez terne. Et en même temps, le fait que sa sœur meure, ça lui donne un statut, ça lui donne une importance. C'est-à-dire là, il y a le patriarcat qui joue, il se récupère sa sœur. Mais en même temps, c'est un type qui est très complexe parce qu'il est très très gêné, parce qu'il sait qu'il est en train de tricher quelque part.
I also want to show in the movie that men, the living under this patriarchy society, also can be victims. And I think in Pat's case, is someone, or in Shane Pat's brother Xing. In his case, is someone that who is not seen as successful in a patriarchy society and therefore has a lot of insecurity. And through this situation, he kind of finds himself and feel that is finally he's able to do something for his family. So it's something that I wanted to show in the movie as well, that how men can also be victims.
Donc le fait en effet de vivre avec et sous le patriarcat dans le cas du frère de Pat, c'est quelqu'un qui justement donc, sous cette société patriarcale ne va pas être vu comme ayant du succès, comme quelqu'un qui a réussi dans la vie. Donc ça fait qu'il est pas sûr de lui et qu'il a beaucoup d'insécurité. Et justement, donc, dans cela, dans le fait que sa sœur décède, il vient à sentir que... En fait, ça lui donne son importance et ça lui fait sentir qu'il peut faire quelque chose pour sa famille, être important. Et ce que Ray voulait montrer, c'était en effet que aussi des hommes peuvent être victimes du patriarcat.
Il y a quand même un phénomène de réappropriation de la morte, non ?
Yes, yes. I think it also wants to show that in those very traditional Chinese ceremonies, it's also very much designed with the men as the most important. So the film wants to show how this kind of ceremony is so outdated. And woman is not placed in an important situation, let alone LGBTQ community has absolutely no place in this kind of very old-fashioned traditional ceremonies.
Dans ces cérémonies très traditionnelles chinoises, il faut savoir qu'elles sont aussi faites pour que les hommes soient les plus importants en fait, dans ces cérémonies, qu'ils soient comme mis en avant. Et donc ces cérémonies sont très has-been, sont très dans le passé en fait, ne sont plus du tout actuelles. Et on voit encore que les femmes sont moins bien placées, moins importantes que les hommes dans ces cérémonies. Et d'autant plus les personnes de la communauté queer et LGBT qui sont toujours un peu reléguées au dernier plan dans ces cérémonies très, très traditionnelles et très, très à l'ancienne.
Le drame que vit la compagne de Pat, elle perd son ami, son amour, sa maison, sa famille, elle perd tout. Et elle s'y attendait pas.
And on top of all that, she also lost her identity, because originally she felt that she was a part of that family, and she, after Pat's gone, she has almost no identity in that family. And she also, in the end, lost her dignity, because she has to go around and asking all the family members to let her stay. And I think the most damaging for her is she also lost the trust she had in that relationship with Pat. Yeah. She started beginning to doubt the situation, whether they were, Pat really, really had her best interest at heart.
Quelque chose qu'elle a aussi perdu en plus de tout ça, c'est son identité, parce qu'elle avait l'impression de faire partie de la famille, d'être une partie de cette famille. La perte de Pat justement est venue questionner tout ça et mettre du remous dans tout ça. Et à la fin aussi, elle perd aussi beaucoup sa dignité quand elle doit aller demander à chaque membre de la famille si elle peut rester dans l'appartement, si elle peut rester dans la maison. Cette façon de forcer auprès d'une famille qui était un jour la sienne. Et aussi, je veux dire qu'elle a commencé aussi à perdre la confiance qu'elle avait dans sa relation avec sa compagne, parce qu'elle se demandait aussi de plus en plus quelle était sa place dans cette relation et si cette relation avait ses intérêts au cœur et le fait qu'elle ait les meilleurs intérêts pour elle. Penser vraiment à elle en priorité.
C'est une situation qui finalement touche pas mal de personnes à Hong Kong et surtout dans des relations lesbiennes.
I think what it reflects more is the lack of people willing to make a will, because in Hong Kong, actually not just Hong Kong, most places, people, I have Q&A with the audience. I ask them whether they have made a will. 95% of people have not made a will because there's always a fear of doing something that they feel they have to face death. Okay. And therefore they do not want to do something about it. And I think that is what the situation in Hong Kong or anywhere else, it's just people are unwilling to make plans by making a will.
Oui, donc ça reflète beaucoup le fait que les personnes n'aient pas envie de faire un testament, notamment quand le film, il y a eu des Q&A, des questions-réponses à Hong Kong avec l'audience, quand Ray demandait à main levée combien de personnes avaient fait leur testament, il y avait environ 95% des salles à chaque fois qui, une dizaine, ne l'avaient pas fait. Faire un testament, ça rend la peur de voir la mort en face beaucoup plus réelle, et les gens ne veulent pas forcément voir ça, les gens ne veulent pas forcément affronter ça, et que ce soit à Hong Kong, mais aussi partout dans le monde, il y a du coup cette peur de faire les plans et le testament qui est associé au fait que ça rend la mort réelle et que la mort peut arriver.
Je voulais simplement savoir quelle avait été la réception du film à Hong Kong et en général, est-ce que tu penses que les gens vont réfléchir justement faire un testament et garantir la vie de la personne, de ta compagne ou de ton compagnon?
Yeah, it is important in Hong Kong because there's no same-sex marriage and there's no recognition of same-sex marriage before. So making a will is definitely the one easier way to protect your loved ones. But actually recently in Hong Kong, there's some activists who have taken the government to court and has won the case. And so therefore, the Hong Kong government has been ordered by the court to recognize some rights from the same-sex marriage overseas. So I think that will certainly help, but you still need to marry overseas in order to get a certain right.
Le mariage pour tous, en fait, n'existait pas. Faire un testament, c'est vraiment une façon de protéger les proches, de protéger ce qu'on aime et ce qu'on laisse derrière. Notamment, donc, il y a quelques temps, des activistes pour les droits donc, à Hong Kong qui ont forcé le gouvernement hongkongais à reconnaître les droits pour justement les couples homosexuels et les couples lesbiens. Ces droits-là, en fait, certains ont été reconnus, mais les couples à Hong Kong queer doivent quand même se marier à l'étranger pour que leurs droits soient valides sur le territoire hongkongais.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire encore?
Yes, but at least it's moving positively. And also the government has... is under, they need to come up with a legal framework to address same-sex marriage in a year's time. That's what the court verdict said.
En effet, il y a encore du travail, mais au moins, ça avance déjà dans le bon sens. Et donc, le verdict de le gouvernement hongkongais a eu, quand il y a eu toute cette montée d'activistes qui a voulu se battre pour les droits queer, la finalité, c'est que le gouvernement va devoir mettre en place un cadre juridique et légal clair pour les droits des personnes homosexuelles et lesbiennes à Hong Kong.
Thank you so much. Thank you. Merci.
Tout ira bien, un film de Ray Young, le 1er janvier, au cinéma. Quiet Life, un film d'Alexandros Avranas. Cela se passe en Suède en 2018, un syndrome mystérieux affecte les enfants des réfugiés. Une famille et leurs deux filles ont dû fuir leur pays natal, la Russie, en raison du père, professeur, qui aurait donné à ses élèves des lectures interdites. Les deux filles s'intègrent parfaitement en Suède, la mère aussi, mais leur demande d'asile est malheureusement rejetée par manque de preuves des menaces faites au père. Soudain, Katia, la plus jeune, qui a été témoin des brutalités contre son père, s'effondre et tombe dans le coma. Puis c'est l'autre.
What has been found in the bodies of these children is that immobility, stupor, flaccidness, their body is not reactive to pain, they are not reactive to stimuli. A lot of them stop eating. They have gone through years and years during that very sensitive development time of experiencing horrible traumatic experiences. A lot of these people, kids have seen people murdered, mutilated, dead bodies, constant exposure to stress, danger, threat, lack of resources, lack of food for years.
Suède, il y a eu énormément de, bah, justement d'accueil de réfugiés, mais surtout de réfugiés de minorités politiques, ethniques ou religieuses de différents pays qui n'étaient pas forcément en guerre. Et ce qu'on a vu avec le syndrome de résignation, c'est que justement ça affecte souvent des enfants qui viennent de minorités en fait, dans leur propre pays et qui ont été persécutés. Ça prend entre 3 à 5 ans pour avoir une réponse en fait, finale sur le droit d'asile. Et entre-temps, en fait, les enfants s'intègrent vraiment dans le pays. Donc, ils sont scolarisés, ils apprennent la langue et ils se sentent finalement suédois très rapidement. Contrairement peut-être à d'autres pays où le système d'intégration n'est pas aussi efficace. Et donc, ça crée une sorte de situation paradoxale où finalement, les enfants se sentent vraiment comme si c'était chez eux. Ils ont retrouvé une maison, un lieu où ils se sentent en sécurité. Et tout d'un coup, en fait, le système suédois d'asile, qui est quand même très dur, va leur dire en fait vous pouvez pas rester, vous allez être expulsé, il va dire ça à la famille. Et donc ça devient très compliqué pour eux. Une des autres explications que j'ai entendues d'autres médecins, c'est que en fait les lettres administratives et les lettres d'expulsion qui arrivent chez ces familles sont écrites en suédois. Et le problème, c'est que les parents ne parlent pas suédois. Donc, c'est souvent les enfants qui lisent les lettres et qui annoncent la mauvaise nouvelle à leurs parents. Et donc ça les responsabilise très tôt. Ils peuvent avoir 8-9 ans. La recherche médicale est très pauvre dans ce domaine. C'est aussi un syndrome qui est finalement assez controversé en Suède parce que ça va à l'encontre aussi de l'image de la Suède qu'on a d'un pays humanitaire ouvert sur les étrangers. Donc justement d'avoir ce syndrome de résignation, ça crée pas mal de polémiques en Suède. Ibadeta, en fait, c'était la protagoniste de mon film, une des protagonistes de mon film s'était réveillée. Et en fait, en lui parlant, elle pouvait m'écouter, elle pouvait m'entendre et répondre à quelques mots. Et en fait, elle a dit à son père qu'elle reconnaissait ma voix. Ce niveau de conscience chez les enfants, c'est assez troublant parce que tu te dis, finalement, ils sont presque enfermés dans leur corps. Et leur cerveau continue de fonctionner et continue de penser et de savoir qu'en fait autour d'eux il y a leur famille, il y a des amis, il y a des connaissances et tout, mais ils peuvent juste plus communiquer avec eux. Pour elle, c'était comme si elle était presque emprisonnée dans son lit et qu'elle sentait toutes les personnes qui étaient autour d'elle et que quand les personnes partaient, sortaient de sa chambre, elle avait l'impression d'être seule au monde. C'était un combat quotidien pour elle pour essayer de se réveiller.
Quiet Life, un film d'Alexandros Avranas, au cinéma, le 1er janvier 2025. Et enfin, pour finir, Mika Ex Machina, film de Deborah Sayag et Mika Tard. C'est au cinéma, le 1er janvier, et c'est Caroline qui nous présente le film.
Mika Ex Machina, un film qui sortira pour le 1er janvier. On va bien débuter l'année, je pense. Un film qui sort par deux réalisatrices, Mika Tarr et Deborah Sahag. J'ai eu la chance de voir ce film pour l'ouverture du festival Chéri Chéri. Et ce fut une ouverture assez joyeuse. C'est parti d'un fait réel que une des deux réalisatrices a vécu, Mika Tarr, sur des petits problèmes qui lui arrivaient à sa moto jusqu'à un jour où elle n'a pas fait attention, elle a manqué d'avoir un accident. C'était toujours des petits foulards, des petits objets qu'on laissait sur sa moto. Jusqu'au jour où on lui avait mis un cadenas sur sa chaîne. Elle est partie sans le voir et le cadenas s'est mis dans le carter et elle a failli avoir un accident. On a pu réparer sa moto. À partir de là, elle a commencé à en parler à ses amis, bien sûr, donc à son amie la plus proche, Deborah Sayag. Donc là, ils ont commencé à avoir des doutes. Donc elle en parle encore à d'autres amis. Et il est né l'idée d'en faire un film. Et donc elles se lancent toutes les deux dans cette aventure. Film tourné entièrement en iPhone. Ils ont commencé à raconter donc cette histoire partie d'un fait réel Donc elles vont nous emmener dans cette histoire, un véritable Cluedo des temps modernes, où avec elles, on va participer et rentrer donc dans cette enquête pour savoir qui laisse ces fameux objets sur cette moto à sa propriétaire.
C'est quoi le Cluedo ?
Le Cluedo, c'était un jeu qui est devenu très 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 populaire dans les années 90. Donc voilà, pourquoi on met cette généralité, on dit comme un Cluedo. Et donc, on part dans cette enquête un peu folle, qui va un peu dans tous les sens et qui nous prouve aussi que cette suspicion, quand même, peut amener loin. Parce que les filles, bien sûr, font de la veille non-stop, parce qu'elles ont réussi à amener tous ses amis de faire un groupe autour de cette enquête. Et tout le monde y est allé de ses hypothèses, de ses recherches, des voyances. On est trop sur quelque chose et qu'on passe des nuits blanches, bah, le cerveau va plus vite que la parole et qu'on arrive à mettre la suspicion sur même des amis très proches. Et ça peut casser donc ces beaux liens d'amitié qu'on avait tissés depuis le début. Ils avaient quand même au départ plus de 50 heures de tournage, donc ils ne nous donnent pas à voir les 50 heures de tournage. On restera juste sur un film de 97 minutes et on sera avec elle jusqu'au bout. Qui faisait ses petites offrandes sur cette moto et le pourquoi.
Mais en quoi ce film est subversif ou intéressant ou énigmatique, à part le fait que c'est un jeu, le Cluedo? Mais à part ça, est-ce qu'il y a une analyse sociale ou une analyse politique ou une analyse psychologique? Il y a quoi?
C'est un cinéma qui est direct ou un cinéma vérité, comme un buddy movies.
Buddy. Donc buddy movies, c'est donc un film de copains. Tu as dit tout à l'heure que le film avait été tourné entièrement à l'iPhone, au téléphone portable. Alors moi, j'ai déjà vu des films, mais en général, ce sont des gens qui connaissent déjà qu'est-ce qu'un cadre, comment bouger la caméra, etc., même si c'est un portable. Surtout si c'est 98 minutes, tout en portable, est-ce qu'il y a un intérêt artistique au niveau cinéma ?
Mika Tar et donc Deborah Sahi travaillent donc ensemble depuis leur rencontre en cours de théâtre en 1999. Très vite, Mika entre au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris, tandis que Deborah s'oriente donc vers la mise en scène au Conservatoire et dans différentes compagnies. En 2000, avec une bande d'amis, elles fondent donc le collectif Les Quiches, avec lequel elles réalisent leur premier court-métrage, puis de longs métrages, des comédies musicales. Elles ont quand même une expérience, comme tu disais, du cadre et de comment filmer. Donc c'est pas n'importe quoi, on sort pas d'un coup des iPhones, c'est des iPhones professionnels, faits dans ce cadre-là, qui sont spécialisés pour tourner des films avec. Pour eux, c'est plus pratique, comme elles se déplacent, comme leur appartement est tout petit, parce que tout se passe depuis l'appartement et du fameux balcon d'où on peut observer la moto. Tout un mécanisme pour essayer de laisser un iPhone qui reste, lui, à tourner 24 heures sur 24 pour essayer de voir si quelqu'un passe. Ils vont au service de police pour poser plainte. Et la police a dit on a beaucoup trop de choses à traiter, votre affaire, on n'a pas le temps. C'est pour ça qu'elles se sont organisées entre amis IES pour mener cette enquête.
Quel est le format projeté ?
C'est un format scope. Donc un vrai format cinéma, c'est un format habituel de cinéma, sans aucun problème. Si elle ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait pas su, tout simplement. On a eu la chance de les avoir avec nous pour cette avant-première mondiale. Et donc elles nous ont expliqué en deux, trois mots comment ils avaient réalisé leur film.
Elles ont combien de rush, tu as dit ?
Elles avaient 50 heures de rush. Elles avaient un pré-découpage, mais après, voilà, elles ont laissé, je pense pour ça qu'elles avaient autant d'heures de tournage, parce qu'après, les amis, comme c'est un peu du direct, si on peut dire, on filme ce qu'il y a filmé. Et après, donc, il y a plusieurs iPhones cachés dans la maison, on prend ce qu'il y a à prendre. Et surtout, quand l'enquête avance et que là, on ne sait pas, elles filent, on les voit filer avec les iPhones dans les mains tout de suite pour filmer ce qui se passe, quoi. Une copine se cache derrière un mur, l'autre iPhone dans la main pour avoir des gros plans. Et de là, après, donc, ils ont fait ce fameux montage pour arriver aux 97 minutes.
Toi, en tant que critique, quand tu regardes donc ce film, est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle forme de cinéma et qu'on va tous se mettre à filmer au portable ?
Ça arrive déjà de plus en plus, donc ça, c'est, pour moi, j'ai pas été choqué par ça. Pour moi, du nouveau cinéma, c'est comme le film qui a été tourné avec Nights Island, je sais pas si vous l'aviez vu, qui est un film qui est fait à partir de jeux vidéo. Là, c'est du nouveau cinéma qui, moi, me dérange personnellement.
Moi, je trouvais ça intéressant.
Mais voilà quoi, donc c'est, chacun a ses goûts et essaye de, d'y aller. Moi personnellement, ça m'a dérangé.
Franchement, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que la forme prime sur le fond. C'est-à-dire qu'on a des objets, comme tu dis, qui sont assez performants. Et d'un seul coup, on fait quelque chose comme ça qui, bon, l'image peut être pas mal, à condition que la personne ait un peu une idée du cadre, etc. Mais c'est pour dire quoi ?
Mais là, voilà, ils ont raconté leur aventure et c'est distrayant, quoi. C'est un film distrayant, surtout en plus, il sort le 1er janvier. Ils n'ont pas voulu faire un grand, grand film, Truffaut ou autre grand réalisateur. Non, non, ils ont vraiment voulu faire donc un film de potes et rentrer dans, dans cette histoire et nous emmener avec pour essayer de mener l'enquête. Et ça tourne presque au trouble névrotique au bout d'un moment.
Je me suis séparée de mon ex en mai. Le lendemain, j'ai trouvé sur ma moto un ruban rouge. Au départ, je me suis dit que c'était elle, un signe, sa façon de me dire « je pense à toi ». Et la suite, ça a été des dizaines de foulards rouges. Tous les jours, ruban rouge, foulard rouge. Et puis des pièces à l'intérieur, 1 euro, 2 euros, foulard rouge, ruban rouge, pièces. Mais un jour, ma moto est attachée, attachée. Un antivol bloque ma moto. Garagiste, 6 circulaires, tous les jours, foulard rouge, pièces de monnaie, garagiste, 6 circulaires. J'ai changé ma moto de place, de rue, rien à faire. Des foulards rouges, des pièces de monnaie, des antivols. J'ai acheté une pince Monseigneur, j'ai coupé des U, des chaînes, de toutes les tailles, des U, des chaînes. Jusqu'au jour où je suis tombée, tombée.
T'as vu ce que j'ai trouvé dans ta chaîne ? Tu roules vite, tu passes à travers le carter.
On va aller voir la police,
les
hein.
Les flics, fais chier les flics, non pas les flics. Vendre ma moto, pas question, ce serait trop con, mais putain qui fait ça ?
En vrai, ça fait peur, quoi.
On sait pas si c'est malveillant ou bienveillant.
Et vous avez pensé au mobile fétichiste ?
Tu dis que c'est quoi, toi ?
Érotomanie.
Acte criminel, cannibalisme.
Ouais.
Pourquoi ? Vous allez pas vous mettre là et observer toute la nuit,
tous les jours ?
On trouve qui c'est ?
La suite, c'est le film, donc.
Samedi 4 janvier 2025. Personne n'y comprend rien.
N'ayant pas reçu par la poste la clé USB de l'émission d'aujourd'hui, nous vous avons passé celle de la semaine dernière. Salut.
I'm
Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, unde non aginta quatuor megahertz.
Radio Libertaire, 89.4.
Nole oble whisky cartula mauditoris emere.
N'oublie pas d'acheter ta carte d'auditeur.
Ut nos pecunia sustineas.
Pour nous aider financièrement.
Hae cartula centum francis consta.
Cette carte coûte 100 balles.
En 20 écus.
In libraria libertari mundi taberna.
Tu peux l'acheter à la librairie du monde libertaire.
In domo quintesima quadragesima quinta via e Amelot.
Au 145 rue Amelot.
Quacum cartula minoris solues proquibus dam spectaculis.
Avec cette carte, tu paieras moins cher certains spectacles.
Alis queremus attractivis.
Et autres attractions.
Radio Libertaria, sediosissima ex omnibus.
Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.